Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue. Est-ce que vous êtes chaud? Trop bien. Ah, je suis hyper stressée, j'ai l'impression que je vais dire n'importe quoi, mais en tout cas, je suis trop ravie que tout le monde soit là aujourd'hui pour accueillir le panel d'invités très grand qu'on a aujourd'hui. Et je sais pas, je suis trop ravie d'être assise à cette table avec tous ces invités que je vais vous présenter au fur et à mesure. Mais d'abord, je vais faire les introductions globales de la journée. Donc, d'abord, bienvenue à tous, ça c'est fait. Ensuite, donc la journée, elle est un peu à l'initiative du SNAP. Donc le SNAP, c'est un syndicat national d'artistes plasticiens qui existe depuis 77. Genre peut-être qu'il y en avait qui ne savaient pas encore qu'il y avait des vieux syndicats d'artistes auteurs. Donc voilà, maintenant vous le savez. Donc à Marseille, du coup, il y a eu. En fait, on nous a proposé de faire une double journée d'événements. Donc il y en a eu une jeudi à Lyon et aujourd'hui c'est à Marseille. On organise ces journées parce qu'il y a un an, il y a eu un congrès du SNAP. En gros, à la CGT, tous les trois ans, il y a. Ah oui, c'est vrai, le SNAP est affilié à la CGT. Voilà, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler. Mais du coup, tous les trois ans, il y a un congrès où on vote en gros un document d'orientation que vous pouvez lire sur le site et qui va donner les orientations que le syndicat va porter pendant trois ans. Et quand on a voté ce document, on a fait des tables rondes. On s'est dit, ah, c'est trop bien, ça serait cool d'en faire aussi en région. Donc c'est pour ça qu'il y a eu à Lyon et à Marseille. Et c'est aussi parce qu'on a eu un budget d'audience dont, en vrai, je ne saurais pas bien vous parler de ce que c'est, mais je pense que d'autres personnes pourront le faire à ma place. Donc, on y reviendra. Et du coup, à Marseille, ça s'est organisé avec Travailleuses de l'Art 13, qui est un collectif qui n'a pas trop d'autres structures que celle d'avoir au moins un compte Instagram, qui est en gros un rassemblement donc, de syndiqués du SNAP, de syndiqués du STA. C'est quoi STA ? Syndicat, travailleurs, artistes, auteurs ? Voilà. Qui est CNTSO, donc une autre branche dans les gros machins du syndicalisme, et des gens non syndiqués, qui vont aussi être proches parfois de l'ABUSE, qui est un collectif aussi de travailleurs de l'art, mais on pourra, pareil, j'ai l'impression que j'ouvre des portes et on va les refermer ou les ouvrir encore plus au fur et à mesure de la journée. En tout cas, si vous êtes à Marseille, c'est possible de rejoindre Travailleuses de l'art et vous impliquer pour réfléchir à ces questions. On a des AG tous les deux du mois. Voilà. Alors, peut-être que... Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi un peu nos communications Instagram, mais de base, l'événement devait avoir lieu à la Bourse du Travail. Donc, les Bourses du Travail, c'est un peu des lieux où souvent... sont installés les bureaux de la CGT dans chaque ville. Et donc, on avait très envie de faire venir des artistes à la Bourse du Travail parce que un peu une des grandes missions de la journée, c'est de vous faire sentir travailleur et du coup, de aussi lutter, enfin, vous inviter à lutter pour vos conditions de travail. Et donc, on trouvait que la Bourse du Travail, c'était un bon lieu pour faire ça. Malheureusement, le fait de se considérer comme travailleur est un combat de tous les jours. Et vous allez voir qu'on a pu avoir des difficultés à faire entendre ça aussi avec la CGT, notamment par rapport aux questions de travail du sexe. Et on est un peu déçus de ça, mais en même temps, ça permet de faire des débats, de faire avancer les discussions sur ce sujet. Et en tout cas, dans tous les cas, on voulait témoigner notre solidarité avec Camille, qui représente justement le STRAS, un syndicat de travailleuses du sexe. On est ravis que tu sois là et que tu sois autour de la table et qu'on puisse parler de lutte, de conditions de travail et de toutes ces choses. Voilà. Ensuite, là, je passe à la présentation de la journée. Donc, il va y avoir deux tables rondes. une ce matin et une ce soir. Et le but, c'est que vous repartiez en étant convaincu que lutter, ça paye. Et vraiment, enfin, c'est pas juste une publicité mensongère. On va vraiment montrer des exemples tout au long de la journée de leur efficacité. Voilà. Des petites informations techniques. À midi, donc il y aura, enfin à midi et ce soir, il y aura deux temps de repas. À midi, c'est fait par The Noble Kitchen, qui est un collectif de femmes nigérianes qui font de la cuisine et plein d'autres choses dans une logique d'entraide. Donc pareil, on est ravis de voilà d'autogestion. Donc on est ravis de les avoir. Et ce soir, ce sera Chef Barbarin qui va nous faire aussi un super repas. Voilà. À chaque fois, les tables rondes sont suivies d'un temps d'échange avec vous, donc vous pourrez prendre la parole. C'est à chaque fois, il y a une captation, enfin, et même là, on est en direct et le monde entier nous écoute parler. Donc c'est retransmis en direct sur la web radio R22 Tout le monde. Et il y aura aussi des podcasts, donc c'est une super plateforme de diffusion plutôt en lien avec tout ce qui est culturel et art visuel et tout ça, avec une orientation politique. Ça te va comme explication? Parfait. Et du coup, c'est Lauriane, Victor et Baptiste qui s'en occupent derrière, donc merci à eux. D'ailleurs, merci à la Bourse du Travail aussi. Non. À la Cité de l'Agriculture de nous accueillir. Ah là là. Voilà. Et aussi, à la fin des tables rondes, de 17h à 19h, avant le repas, il y aura des moments informels où vous pourrez venir parler avec les intervenants, avec le SNAP, avec les gens du STA, avec les gens de Travailleuses de l'art, avec la librairie Transit, qui aura une table avec des livres qui seront dans la salle là-bas. Voilà, plein d'autres choses. Bon, j'imagine que j'ai oublié des trucs qui... Ça, j'y arrive. Donc, là, je passe à mon point numéro 2, introduction table ronde du matin. Voilà. Donc, on a écrit « En quoi les travailleuses de l'art ont leur place au sein des luttes collectives et syndicales actuelles et comment nouer de nouvelles alliances avec d'autres secteurs ?» Donc, je vais faire une présentation rapide des 6 collectifs, organisations ou représentants qui sont là ce matin. En tout cas, représentantes, merci. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, merci. Il me faudrait tout le temps un petit ange comme ça qui me rappelle. Alors, en tout cas, ce qui réunit ces gens, c'est qu'ils ont été acteurs ou actrices de luttes collectives et structurées à un moment ou actuellement, qui parfois vont jusqu'au syndicalisme, mais pas toujours. Un des autres points communs, c'est que c'est vraiment des luttes hyper inspirantes pour nous, et c'est comme ça qu'on a construit notre programme en mode qu'est-ce qui nous fait rêver, et voilà, on va vous. J'espère que ça vous plaît que je dise ça, mais en tout cas, ça nous inspirait beaucoup. Et qui ont tous aussi la particularité d'avoir plus ou moins des statuts de travailleurs précaires ou qui ont dû se battre pour faire reconnaître leur légitimité à rentrer en lutte et à construire ça. Travailleuses, merci. Et aussi, le dernier point commun, c'est que tous, ils travaillent aussi à transmettre leur travail et leur lutte. Et voilà, on voulait donner un écho supplémentaire à tout ça. Voilà, j'y vais pour les présentations. Alors, dans l'ordre. Donc d'abord, on a invité, je vais faire dans l'ordre que vous êtes autour de la table, je ne m'étais pas dit ça ce matin, mais ce sera plus pratique. Mais du coup, on a Mémoire des sexualités, donc qui À chaque fois, je vais y aller très rapidement et après, vous compléterez. Mais au moins, depuis 2017, vous appliquez à prolonger un fonds d'archives autour des questions LGBTQIA+, voilà, et comment les transmettre. Et vous venez d'avoir un lieu. Donc, c'est trop chouette à Marseille d'avoir des trucs un peu fixes. Et en plus, tous les deux, vous développez justement un axe sur les questions de travail et lutte queer. Voilà. Ensuite, nous avons un représentant de l'après-M. Je te laisserai te présenter plus parce que tu es quand même une figure importante de cette lutte. Mais du coup, l'après-M, ça a été la réquisition pendant le Covid d'un ancien McDo pour faire de l'entraide sur des questions alimentaires vers Saint-Antoine, c'est ça ?
Sainte-Marthe.
Sainte-Marthe, merci. Voilà. Ensuite, donc, on a co-secrétaire du SNAP. Voilà, un représentant du SNAP, donc le syndicat d'artistes-auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous tourne le dos, désolée, peut-être qu'il faut que je recule, je vais tomber comme ça. Voilà, ensuite il y a Camille, représentante du STRAS, syndicat de travailleuses du sexe, depuis 2007, c'est ça, 2009 je... Non, mais le syndicat, 2009. et que tu t'occupes du service juridique, voilà. Ensuite, Zora Bouknouch, qui a fait un million de trucs à Marseille, mais qui, peut-être qu'aujourd'hui, je peux l'axer sur la transmission de la marche dont il y a l'affiche juste derrière pour l'égalité et contre le racisme. Des fois, on connaît cette marche parce qu'on l'a appelée la marche des beurs, mais je crois qu'il faut vraiment pas utiliser ça. Donc je vois que tu confirmes ça et j'espère que tu pourras nous expliquer justement qu'est-ce qui s'est passé dans ce changement de nom. Mais tu as aussi participé à la rédaction d'un livre qui s'appelle Le Guide du Marseille décolonial. Comment ? Marseille coloniale, j'ai l'impression que tu es dans toutes les AG diverses et variées à plein de moments différents, donc j'espère que tu pourras nous parler de tout ça. Et enfin, je finis avec la permanence, qui du coup est un collectif qui a notamment rédigé un fanzine, une revue qui est disponible là-bas, qui s'appelle La Grande H, et qui s'est attelé à produire des statistiques sur le monde de la danse et qui dirigeait les lieux de danse, si c'était des femmes, si c'était des hommes, si c'était des personnes racisées, et qui partagent les difficultés à pouvoir produire ces statistiques. Voilà. Et là, en plus, il y a de l'eau qui arrive et vraiment, ça va être salvateur par rapport à l'état du stress de ma bouche. Je vais comme ça pouvoir vous passer la parole et commencer avec... ça va tout le monde ? Ça va, vous n'êtes pas déjà... J'ai rien oublié, tout va bien. Peut-être que du coup, je vais y aller avec une première question. Si vous, peut-être, il y a deux micros du coup sur la table. Peut-être on fait comme ça de nouveau dans l'ordre. Si vous voulez chacun peut-être repréciser qui vous êtes et peut-être aussi préciser qu'est-ce qui vous a réuni, quelles sont les luttes. Qui ont fait que vous avez commencé à vous retrouver en collectif, et aussi comment est-ce que vous avez commencé à politiser vos situations. Voilà. Ou peut-être qu'on peut commencer dans l'autre ordre, parce que je crois que je m'étais un peu dit qu'on commencerait avec la permanence, alors je ne sais pas si... peut-être que je vais arriver à respirer un coup et pouvoir faire une vraie circulation de la parole maintenant que j'ai fait mon rond comme ça. Mais du coup, ouais, si ça vous va de commencer.
Ça nous va très bien.
Merci.
On a échauffé nos voix. juste avant. Oui, je peux peut-être faire une petite introduction rapide. Nous, on s'est constitué en 2017, plutôt sur Paris banlieue, ce qui est plus vraiment la réalité géographique du collectif. On est plutôt un peu éclaté partout en France métropolitaine. Et du coup, en 2017, on s'est constitué en collectif suite un acte raciste qui a eu lieu dans une institution culturelle parisienne, la Ménagerie de Verre. Et donc, à partir de là, on a commencé à entamer des discussions collectives entre actrices du champ de la danse, plutôt autour de questions antiracistes et décoloniales. Et puis, progressivement, on a aussi embrassé en fait la question des discriminations et des conditions de travail de manière plus large. Donc on a pas mal relayé des tribunes, on a été aussi et on est toujours une cellule d'écoute pour des actrices du champ de la danse, que ce soit des salariés dans des institutions ou des interprètes ou des artistes, enfin tout type de profession en fait que regroupe le champ de la danse. Voilà, on s'intéresse beaucoup aux questions de formation aussi, de discrimination dans les formations. Et puis, on a relayé et on a aussi initié pas mal d'actions lors de l'affaire Yann Fabre, donc un chorégraphe belge qui a été accusé d'harcèlement moral et sexuel. Et nous, on a pas mal relayé ça en France à ce moment-là, à faire du tractage, à informer en tout cas les spectatrices et le monde de la danse plus général, voilà, autour de ces questions-là, de poser la question des violences sexistes et sexuelles dans le champ de la danse. Voilà. Et puis, en fait, on a commencé aussi à produire quelques ressources assez vite, sous type de zine. Donc, on avait sorti un premier zine qui était plutôt axé autour de témoignages de personnes qui vivaient des situations de discrimination dans le champ de la danse. Et puis, suite à ce premier zine, finalement, on s'est dit que les témoignages et les discours subjectifs, c'était super. Enfin, nous, on trouve ça hyper important. Mais parfois, c'est pas assez impactant pour les institutions. Du coup, on s'est lancé dans ce chantier de statistiques raciales, en fait, qui est un travail interdit en France, en tout cas, qui est très encadré d'un point de vue législatif. Mais bon, on reviendra dessus après. Et du coup, nous, on s'est attelé à ce chantier de manière vraiment bénévole et militante, hein, sans être des statisticiens ou des statisticiennes, à compter en fait combien il y avait de personnes non blanches dans les centres chorégraphiques, que ce soit dans les équipes dirigeantes, que dans les porteurs, porteuses de projets, enfin à travers des programmations, mais on reviendra dessus en détail après. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là.
Tu veux prendre la suite?
Alors moi, je vais partir des années 80, puisque en fait, aujourd'hui, donc, on commémore les 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Donc je vais aller directement sur le mot beurre. C'est-à-dire qu'au lendemain de la manif où on était à 100 000 personnes à Paris, le journal Libération a écrit « La marche des beurres ». En mettant « La marche des beurres », donc c'est déjà effacer les luttes. Et puis dans la marche, il n'y avait pas que des Arabes, il y avait aussi des Français, des Portugais, des Italiens, etc. Et politiquement, pour nous, c'était une agression. C'est-à-dire que quand la marche est partie de Marseille dans l'indifférence générale, il faut rappeler donc ce qui s'est passé les années avant, que ce soit à Marseille, à Paris... Quand je dis Paris, c'est plutôt, comme tu dis, banlieue, c'est-à-dire Marseille, Nanterre, Lyon, Toulouse, dans toutes ces grandes villes où vivaient des populations issues de l'immigration postcoloniale. Effectivement, l'Algérie est un lien important avec la France, puisque c'est un des seuls pays où il y avait une colonisation et une installation de Français en Algérie, qui fait une particularité par rapport à l'histoire. C'est important de le souligner parce que c'est ça qui va faire que la police, l'administration et collectivement dans l'histoire française, c'est le rapport qu'on a avec les Algériens, notamment les indigènes. Effectivement, si on prend les Antilles, c'est toujours une colonisation. Si on prend le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, etc., c'était des colonisations, mais plutôt des protectorats. Il n'y avait pas une installation de population française dans ces pays-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 83? Eh bien, avant, on va commencer par Marseille, puisque je suis marseillaise. En octobre 80, le 18 octobre 1980, Lawari Ben Mohamed est tué par un CRS qui s'appelle Taïfer, et qui, lors d'un contrôle banal dans le quartier des Flamands, ou la Busserine, parce que c'est les Flamands, la Busserine, c'est à côté, c'est les Flamands, hein. Il y a donc un CRS qui dit à quatre jeunes dans une voiture, faites attention les jeunes, ce soir il fait froid et peut-être que je vais avoir la gâchette facile. Et à partir de là, donc premier tir. Quelques mois après, donc à la Busserine, c'est Zahir Boudjelal qui est assassiné. Mais ça, c'est des choses que l'on sait. Si on remonte 10 ans en avant, parce qu'il y a aussi, c'est important de le rappeler, en 73, il y a donc l'été chaud dans le sud de la France, avec les ratonnades. Suite à un événement où un Algérien malade mental a assassiné un chauffeur de bus, à partir de là, donc il y a Gabriel Demonec qui était journaliste de Meridiona, donc un journal d'extrême droite, qui avait sorti une tribune en disant « assez de ces Algériens, violeurs, assassins, etc. » Et à partir de là, donc, une flambée raciste a eu lieu dans le sud de la France. Il y a aussi eu des événements en Grasse. Et à Marseille, il y a un jeune qui s'appelle Ladj Lounès, qui a été tué dans le quartier de la Calade par un ancien d'Algérie française, qui est un policier et qui a tué avec son arme. Et donc, heureusement que là, quand il y a eu... une enquête, le commissaire de police n'était pas marseillais, ce qui a fait que rapidement le policier a été arrêté, mais il est mort en prison. Donc ça, c'est la situation qui fait que, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour nous dans les quartiers? Comme tous les jeunes de 20 ans, au lieu de se dire on va faire des études, on va vivre, etc., on est rentré dans la lutte contre les violences et les crimes racistes. À côté de ça, donc, on avait créé, à l'époque, donc c'était interdit pour les gens de nationalité étrangère, une radio pirate, une radio libre, qui s'appelle Radio Gazelle. Donc, c'était une radio qui n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui, qui a changé de nom. C'était une radio multiculturelle où il y avait plusieurs immigrations, que ce soit algérienne, arménienne, antillaise, chilienne. Je crois qu'on était, si je me souviens, 13 communautés, donc 13 langues. Et l'objectif de cette radio, c'était effectivement de faire en sorte d'interpeller les gens sur la situation des gens dans les bidonvilles, parce qu'il faut rappeler quand même que dans les... C'est long, hein, moi ça va être long, il faut que j'essaie de raccourcir. C'est que dans les années 60, il y avait des bidonvilles dans les quartiers. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu une ségrégation spatiale. Le nord, c'est plutôt l'immigration postcoloniale. Le sud, c'est plutôt les quartiers, on va dire, blancs, bourgeois et français. Et donc, à partir de là, donc, on a monté cette radio en se disant, bon, ben, il y a des choses qui se passent et on veut, nous, sortir de l'information qui est une information différente des médias institutionnels. Et à partir de là, donc en 83, quand à Lyon, Toumi Djaïda est intervenu pour enlever un chien qui attaquait un jeune, et qui était un chien d'un policier, il s'est pris une balle dans le ventre. Et à partir de là, il y a eu un choc et il s'est dit, il faut qu'on fasse une marche. Et donc, à partir de là, il y a eu un contact avec toutes les villes de France, notamment en Marseille, et c'est de là qu'est partie la marche.
Merci. Pardon. Merci beaucoup. Enfin, oui, en vrai, c'est long, mais c'est long, tellement essentiel. Là, du coup, c'est les 40 ans de la marche. Et...
C'est les 40 ans de la marche, et c'est aussi les 50 ans des ratonnades et de l'attentat du consulat d'Algérie, que j'ai oublié, je crois.
Mais, En tout cas, merci beaucoup de partager ça. Enfin, je crois que c'est... Enfin, merci. peut-être qu'on pourra, en tout cas...
Juste rajouter un truc par rapport justement au lien. Effectivement, quand il y a eu la marche à Marseille, le seul photographe que nous avons eu, c'est Pierre Ciotte. Pierre Ciot, donc qui est de la SAIF, et donc heureusement qu'il était là pour qu'on ait des images.
Trop bien de savoir ces liens-là. Merci beaucoup. on continue, enfin, on va revenir sur tout ça, évidemment. Et du coup, Camille, je te laisse continuer.
Alors moi, ce sera un petit peu moins long parce que je suis beaucoup trop jeune pour être une archive vivante des luttes des travailleuses du sexe. Donc déjà, merci de m'avoir quand même accueillie et désolée que ma simple présence et ma petite intervention aient causé un tel chaos organisationnel. Mais ce qui légitime encore notre existence, enfin le fait que nos discours et notre existence soient à ce point une figure repoussoir légitime, le bien fondé de l'existence du mouvement et le fait qu'on continue de se battre pour prendre la parole malgré tout. Donc merci pour ça. Et sinon, si je dois parler un peu de mon organisation, le STRAS, le syndicat du travail sexuel, qui est né en 2009 à Paris et qui depuis s'est doté de fédérations régionales pour être présent partout en France et être un peu plus proche des réalités locales. Ce qui nous a réunis, je pense que déjà, il y avait quelque chose de symbolique dans le fait de se nommer syndicat, c'était dire notre activité, c'est un travail en fait. Nous ne sommes pas des personnes en situation de prostitution, nous sommes des travailleurs. Et nous pouvons nous regrouper et nous pouvons retrouver du pouvoir sur nos existences et améliorer nos conditions de travail par nos propres combats sans se faire confisquer notre parole. Donc avoir la légitimité de se dire nous sommes les experts de nos propres situations et nous allons nous faire entendre. Donc symboliquement, c'était un choix très fort. Et sur les premières luttes du STRAS, c'était évidemment à l'époque, le délit de racolage existait encore. Donc il s'agit de lutter contre l'infraction de racolage. Plus tard, on a lutté contre la pénalisation des clients, malheureusement, sans que ça ait donné le succès escompté. Et puis, alors voilà, ça a commencé par être un regroupement de personnes qui faisaient du plaidoyer, enfin... Voilà, qui se constituait comme un groupe de travailleurs pour faire du plaidoyer. Et plus tard, le service juridique a été créé dans une idée toujours d'autogestion, d'entraide communautaire, de se dire on a des droits et on est aussi légitime à y avoir accès et à les demander. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que moi je suis arrivée au STRAS en tant que coordinatrice du service juridique en 2020. Et je pense que pour la suite, je développerai peut-être un petit peu plus tard.
Parfait, merci. Je te laisse continuer.
Merci. Ah, celui-là, il marche, oui. Pierre Garçon, je suis artiste-auteur, sculpteur. Je représente le syndicat national des artistes plasticiens et plasticiennes. Depuis quelques années, on a fait plasticien, plasticienne. Ça a pris du temps. de la Confédération Générale du Travail. C'est un syndicat qui a été créé en 1977 par des artistes de l'époque. À l'époque, c'était peintres, sculpteurs, quelques peintres et sculptrices, mais peu. C'était ce qu'on appelait les artistes engagés, souvent de la nouvelle figuration française, qui souhaitaient s'inscrire au sein de la Confédération Générale du Travail comme des artistes, travailleuses et travailleurs. On a encore, au sein du syndicat, une des fondatrices qui est toujours à la Commission exécutive nationale. Elle n'est pas ici, c'est une parisienne. Mais c'est-à-dire que c'est un syndicat aussi multigénérationnel, ce syndicat. Je commence à être long, désolé. Qu'est-ce qu'ils font de... Oui, qu'est-ce qu'ils font de l'objectif de, d'être à la CGT, c'est de se dire qu'on est, on est des travailleuses et des travailleurs. Et c'est pour ça qu'on rejoint une confédération. Et c'est ce qu'ont fait les fondatrices et fondateurs du SNAP. Et c'est ce qu'on revendique encore. Et donc on a cette fierté d'être avec, dans une confédération de tous les métiers. Or, ce qui s'est passé, c'est que tous les métiers ne sont pas reconnus. Et voilà. Donc on a du travail à faire dans notre famille. On a du travail à, pour convaincre nos camarades qui n'ont pas encore compris que l'alliance doit être faite dans les luttes pour des droits pour toutes et tous. Moi, je dirais que conquérir des droits, c'est conquérir des choix. Voilà, c'est, ça j'aime bien. C'est un truc que j'ai inventé. Quand vous avez des droits, vous avez des choix, c'est-à-dire que vous avez le choix de continuer, de vous arrêter, de faire mieux ou de faire autre chose. Quand vous n'avez pas de droits, vous n'avez pas tellement le choix. Voilà. Et donc la lutte syndicale, pour moi, c'est ça. Pour nous, donc, avec le STRAS, on a un groupe de travail qui s'est engagé depuis un an. Mais on a des relations de signatures, de textes, de revendications concrets depuis... Depuis le confinement, où j'ai souvenir que la caisse de soutien du STRAS a été arrêtée au prétexte que, qu'alimenter cette caisse, c'était devenir proxénète. Je me souviens de ça. Donc ça, c'est ça qui a fait l'alerte du SNAP pour se dire qu'on allait commencer à signer des textes ensemble et qu'on allait... poursuivre des luttes ensemble, parmi nous, on est tous concernés, soit à titre direct, soit à titre de relation familiale ou amicale, soit à titre de client, soit à titre de bénéficiaire de prestations, on est tous concernés par le sujet, plus ou moins. Voilà. Maintenant, pour au niveau syndical, à quoi ça sert ces luttes? Ça sert à conquérir des droits.
On va avoir l'occasion de détailler plus ça au fur et à mesure de la table. Mais c'est vrai que je voulais revenir sur... Très contente que, du coup, travailleurs du sexe et travailleurs de l'art soient à côté, parce que j'ai l'impression qu'on a aussi et c'est pour ça que je pose cette question de comment on politise nos situations. En fait, tant qu'on se considère pas travailleur, tant qu'on se considère pas comme sujet politique, et je pense que c'est comme ça qu'après on a élargi le cadre des invitations, c'est pas possible de conquérir des droits et que du coup, pour aller vers la continuité du revenu des artistes-auteurs, il faut d'abord commencer par se considérer comme travailleur de l'art. Et on a beaucoup de choses à apprendre de nos collègues militants. Donc voilà, c'était juste pour que vous gardiez l'objectif que l'on vise. Mais donc merci encore. Et du coup, voilà, on va continuer peut-être avec, si tu veux bien, nous faire un petit récit de l'incroyable histoire de l'après-m et de ton rôle dedans aussi.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kamel Guémari, je fais partie d'un des fondateurs, fondatrices de ce lieu qui s'appelle l'après-m. Pour nous, l'après-m, c'est le monde d'après, comment on souhaiterait le vivre, le rêver. Ce lieu, c'est un lieu d'hétérotopie. C'est le lieu là où les utopies peuvent se croiser et se réaliser. J'ai travaillé sous cette enseigne pendant 23 ans. J'ai travaillé 3 ans pour McDonald's et 20 ans contre McDonald's. Donc, le jour où j'ai pris conscience qu'il lutte peut perdre, mais qu'il ne lutte pas a déjà perdu, là, je suis devenu le petit vilain canard de cette petite entreprise. quand on rentre, ben, on ne veut pas ressembler à un syndicat, on veut ressembler à un responsable ou directeur ou franchisé, parce qu'ils nous vendent ce rêve américain alors que nous sommes dans un pays de droit. Donc nous, on a cru à ce rêve américain, mais on a essayé de se le approprier et essayer de le faire valoir nos droits et de pouvoir reprendre notre destin en main et ne pas chercher à vouloir s'intégrer, parce que c'est difficile de s'intégrer dans le rejet. Ou pour certaines personnes, ou qui veut s'intégrer, il va falloir qu'ils puissent rentrer dans un moule. Mais à force de vouloir rentrer dans un moule, on en finit par devenir une tarte. Donc, pour nous, quand j'ai commencé à travailler, on a vu que on se faisait voler nos heures. Si on voulait nous éliminer d'une entreprise à une autre, ils nous donnaient une petite évolution avec un nouveau contrat pendant 3 mois à l'épreuve. Et une fois que notre contrat finissait, ils mettaient un terme à notre contrat. Le CDD s'est terminé. Donc on est parti sur une lutte de se dire toutes et tous, nous avons les mêmes embauches, les mêmes évolutions, les mêmes formations, et l'hamburger a le même goût. Donc comment on peut réussir à créer une charte sociale? Comment on peut réussir à créer une US, une unité économique et sociale? Donc on était 24 restaurants, 1200 salariés. Et quand on a commencé à s'organiser, on a réussi à créer cette US. On a commencé à limiter un peu cette discrimination sociale qu'il y avait d'un restaurant à un autre. Et de là, on a commencé à devenir un modèle dangereux, un modèle social qui était dangereux pour McDonald's. On a réussi à obtenir pas mal de droits, que ce soit le 13e mois, les heures de nuit pour les étudiantes et les étudiants, parce que ce restaurant de Saint-Barthélemy n'était pas un restaurant comme les autres. La plupart des travailleuses et des travailleurs sont issus de familles monoparentales, alors que les autres McDonald's, ce sont des étudiantes et des étudiants n'ont pas le temps de s'auto-organiser pour faire valoir leurs droits ou améliorer leurs conditions de travail. Donc le turnover, il était plus élevé. Nous, on avait le temps. Ce temps-là nous a permis à nous organiser, à vouloir évoluer, à apprendre à connaître la santé de cette entreprise. Et on a réalisé que cette entreprise, elle générait plus de 5 milliards d'euros de bénéfices qu'en France. C'était le deuxième marché mondial, mais c'était le premier marché rentable au monde. C'était après les États-Unis. Donc c'était le deuxième marché mondial après les États-Unis, mais c'était le premier marché rentable. Donc nous, on s'est dit, mince, mais on ne sent pas l'odeur de notre participation bénéfice. D'où elle a commencé cet acharnement sur nous et la fermeture du restaurant. Donc on a commencé à lutter, on a réussi à fermer, bloquer la chaîne de distribution, on a paralysé 215 McDo, un peu tout le sud-est. Un McDonald's qui fait 10 000 euros par jour de chiffre d'affaires fois 215 pendant 8 jours, ça représente pas mal de millions. Donc c'est là où on a réussi à gagner, on a réussi à dépasser les frontières de notre département. Les collègues de Paris, de Rouen, ils ont commencé à s'intéresser à nous et ils se sont dit comment ils ont pu réussir à faire. Donc on est rentré en contact avec eux, on a partagé notre douleur, notre souffrance, notre colère ensemble. Et tout ce qu'on a pu obtenir, on a réussi à lutter avec eux pour qu'ils puissent obtenir la même chose, parce que l'hamburger de Marseille ou de Paris a le même goût. Et quand on a commencé à réaliser que cette entreprise, elle arrivait à cloisonner l'information, parce que ce qui se passait à Marseille n'arrivait pas jusqu'à Paris. Et on remercie bien sûr le journal La Marseillaise et L'Humanité. C'est grâce à ces journaux qu'on a pu réussir à créer des liens, des contacts. Et de là, on s'est intéressé un peu à cet argent qu'on n'arrive pas à toucher. cette participation bénéfice qu'on a réalisé que l'entreprise faisait de l'évasion fiscale. En 2013, on a commencé à porter plainte avec Eva Joly, avec les collègues de Paris. On a réalisé qu'il y avait plus d'un milliard d'euros qui a été évadé. Donc, d'un combat syndical, on a commencé à l'enrichir par un discours politique. Et on a essayé de faire prendre conscience qu'à cette multinationale, si elle travaille ici, elle vit ici, donc elle doit partager sa richesse dans notre pays. Et c'est là où on a commencé à rentrer frontalement contre cette multinationale pour lui faire prendre conscience que cet argent qui est évadé, ça impacte nos hôpitaux, nos instituts, nos écoles et nos quartiers. Et il est hors de question que vous pouvez vous permettez de nous pointer du doigt au lieu de nous tendre la main. Et vous êtes en train de créer des génocides parce que vous appauvrissez notre pays. Donc là, en 2016, double perquisition chez McDonald's. Et là, McDonald's, ils se sont dit, il va falloir qu'on arrive à éliminer ce village gaulois qui est en train de nous foutre le bordel dans toute la France. On a réussi à créer un amendement au Sénat. Ils ont parlé deux fois de nous au Parlement national. On a été reçus au Parlement européen. Et de là, ça a commencé à prendre une ampleur internationale. On a rencontré les collègues des États-Unis, les collègues d'Espagne, d'Angleterre, et on a commencé à lutter contre toutes sortes de discriminations, parce qu'il y a une omerta aussi sous cette enseigne-là. Il y a de la discrimination pas que sociale. Il y a harcèlement sexuel, il y a de l'abus de pouvoir, il y a, quand on a le pouvoir, souvent, on s'octroie pas mal de droits, alors que non, l'être humain, il doit préserver sa dignité, on doit le respecter tel qu'il est, pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. C'est important.
Mais ça ressemble à des trucs qu'on voit régulièrement dans plein d'entreprises, dans le capitalisme.
C'est notre société qui nous amène à fonctionner, à reproduire ce qu'on subit inconsciemment. Parce que humainement, on a tendance à reproduire ce qu'on subit inconsciemment. Et nous, à travers cette colère, le monde d'après, on voudrait le rêver, et ne pas ou ne plus reproduire ce qu'on subit inconsciemment.
Et comment, du coup, vous en êtes arrivé à cette étape de l'après-M, du coup ?
Tout d'abord, on s'est dit, notre force à nous, c'est nous, mais notre faiblesse à nous, c'est nous. C'est nous-mêmes, c'est notre ego. Comment on peut pardonner le corrompu, mais pas le corrupteur ? Et ça, c'est très, très difficile parce qu'on a tendance à partir dans une lutte et souvent, quand on commence à rentrer dans le doute, on va essayer de se regarder entre nous et essayer de perdre notre temps et notre énergie à créer des faux débats, des faux combats, alors que le rouleau compresseur, il continue à faire son travail. Nous, on s'est dit, il va falloir qu'on pardonne le corrompu, on va falloir qu'on pardonne celui qui n'est pas d'accord avec nous, celui qui est contre nous. Mais nous, c'est cette enseigne, c'est ces corrupteurs-là qu'il va falloir qu'on essaye de les combattre, mais de la meilleure manière, le plus sagement possible, parce qu'on n'a pas un faciès, ni on vit dans un territoire qui nous avantage. Parce qu'ils nous prenaient pour des racailles, et ça a été difficile à travers les regards de certains, des voleurs, des ci, des ça. Alors que nous, moi personnellement, j'ai grandi dans une cité. Je suis gilet jaune, oui, et fier de l'être, parce que nous sommes gilets jaunes depuis notre naissance. Cette violence sociale, oui, on l'a ressentie, on la ressent dans ces cités parce qu'on est abandonné, on est stigmatisé, mais on a volé nos vies, vidé nos frigos. Et aujourd'hui, on s'en plaint pourquoi on a réussi à créer des voyous low cost. Mais quand on a le frigo vide, quand on regarde nos parents, ils sont en détresse sociale, on n'a pas le choix que partir dans la débrouille. Alors que c'est une minorité. Mais quand on regarde ces cités-là, il y a des héros. Et ces héros-là, ils se lèvent le matin pour pouvoir nettoyer nos rues, ramasser nos poubelles, nettoyer nos bureaux. Ils sont là, c'est un travail de fourmi qui relève, qui maintient notre pays aujourd'hui, que ce pays est qui fait partie d'une puissance mondiale. Mais ce n'est pas grâce à des pantins qui sont assis sur leur trône et à chercher à nous dire « faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce qu'on fait ». Et nous, à travers nos actions, on essaye d'apporter des réponses par nos actes.
Mais tu nous fais trop de suspense, là. On veut savoir l'histoire de la prière, comment vous l'avez construite.
Ok. à travers cette lutte...
Et qu'est-ce qui s'est passé au moment du Covid aussi? Enfin, j'ai l'impression que ça a été assez charnière dans comment ça s'est transformé.
Nous, quand McDonald's a voulu essayer de nous éliminer, mais ils ont oublié qu'on a fait des alliances, des luttes ou des convergences de luttes avec que ce soit les LGBT, toutes sortes de travailleuses et travailleurs avec les collègues, les postiers du 92, les collectifs de justice et vérité pour Adama. Quand il y avait une lutte, on était là, présent, on essayait de donner un coup de main parce que leur douleur est la nôtre. La discrimination qu'ils ressentent, on la ressent. Mais comment on peut arriver à l'exprimer ensemble? Et quand cette multinationale nous a attaqué frontalement, ils ont réalisé qu'on était nombreuses et nombreux. Et de là, ils ont cherché à vouloir vendre ce restaurant à un repreneur qui était en paille. On a été reçus deux fois à Bercy. Donc l'interministériel, la première fois, il a essayé de nous convaincre. La deuxième fois, on a reçu un don du ciel de la fiche d'imposition de cette personne qui voulait racheter ce restaurant, qui gagnait 8 500 € à l'année, qui n'avait pas un franc, qui était un retraité, qui ne parlait pas français, qui ouvrait une holding en Tunisie, qui allait exploiter notre restaurant. Donc j'en avais marre et on a lutté pendant presque toute une année sans s'arrêter. Donc le 7 août 2018, je me suis enfermé dans ce restaurant et j'ai failli m'immoler. J'ai sorti tous les salariés parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On savait que le 7 août, il allait y avoir cette vente, mais on a mené une procédure aussi juridique. Et on devait passer au tribunal le 3 septembre. Donc, mais s'ils vendent le restaurant, c'était irréversible. Donc je me suis dit, moi, ce restaurant, je suis rentré à l'âge de 16 ans, m'a aidé à reprendre confiance en moi, m'a appris à travailler en équipe. C'est un outil extraordinaire, c'est un ascenseur social, m'a permis d'évoluer, de devenir responsable de formation sur 7 restaurants. Il a aidé pas mal de personnes de pouvoir s'en sortir. Il est hors de question que cet outil puisse disparaître alors que cet outil fait partie d'une zone franche. Cet outil que l'État a donné de l'argent sur l'aide à l'embauche, sur la TVA, cette multinationale qui s'est enrichie sur notre dos, il est hors de question qu'on puisse perdre cet outil-là. Donc il y a eu une requête de notre avocat que le juge a saisi, qui a suspendu la vente et on a réussi à casser la vente et à condamner les protagonistes à vouloir faire une tentative d'escroquerie sur cette vente-là. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu les licenciements économiques que McDo a enclenché. Nous, avec l'expertise de technologie, on a réussi à démontrer que le lieu, il est viable. Le lieu, il n'est pas en perte économique, mais que c'est McDonald's qui a creusé la perte économique en faisant disparaître la géolocalisation.
Et du coup, vous avez occupé le McDo ?
Occupé le lieu, on a continué. Là, on continue à travailler, mais avec une boule au ventre et en sachant qu'on allait être éliminé. Donc, quand on est arrivé l'inspection de travail a annulé. On a réussi à utiliser leurs outils. On a payé des huissiers pour faire constater tout ce qu'on pouvait faire constater qu'il fallait qu'ils fassent valoir nos droits parce que la justice, elle ne juge pas sur la vérité, mais elle juge sur des causes et des faits. Donc, à nous d'y aller chercher ces outils-là pour faire valoir nos droits. Donc on a été jusqu'à la ministre Pénicaud et on remercie la justice médiatique qui a fait bouger quelques lignes, qu'elles soient politiques ou juridiques. Donc, elle ne pouvait plus se prononcer. Et elle, donc, on a essayé d'accompagner le menteur jusqu'à la porte de son mensonge. Et là, il y a eu l'annulation de licenciement économique. Donc, on est parti en liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire, on est devant un tribunal de commerce face à des juges, des patrons. Donc, on pouvait... Mais malheureusement, on s'est dit, bon, on va aller les deux pieds en avant. On a signé l'AGS, le liquidateur, le tribunal, de pouvoir appliquer l'article 1224-1. Le fonds de commerce appartient à McDonald's France, le lieu, les murs appartiennent à McDonald's France. Donc, il fallait qu'ils transfèrent, nous, on voulait qu'ils transfèrent nos contrats à McDonald's France. Donc, c'est ce qu'ils ont
Mais
fait.
Et du coup, à un moment, il y a pas eu un rachat de la mairie, du coup.
Après. Donc, c'est ce moment-là qui était douloureux,
je voulais juste... Il faut peut-être qu'on ait le temps de passer la parole à tout le monde.
C'est pour ça que j'ai dit que l'histoire allait être très longue. C'est juste pour montrer comment ils arrivent à nous mettre en détresse et qu'on puisse se manger entre nous. Donc, on a été en liquidation. De là, ils nous ont pu payer pendant... Moi, j'étais payé depuis le 7 août 2018. Je n'avais pas de salaire. Mais le 12 décembre 2019, ils nous ont arrêté les salaires. Ils nous ont transféré nos contrats dans une holding et ils ont commencé à monter les salariés qu'ils ont lutté pendant une dizaine ou une vingtaine d'années ensemble contre moi. Je me suis retrouvé face à tous ces salariés, pas de salaire. Donc pas de loyer payé, pas de crédit payé. Donc ils se sont retrouvés en détresse. Et ces salariés se sont retournés contre moi pour pouvoir signer cette rupture conventionnelle. Ils ont mis un médiateur et tout ça. Après, moi, je ne leur en voulais pas parce que je savais leur douleur. Donc, j'ai levé le drapeau. J'ai dit, OK, je signe. Il y a une seule condition, que les salariés puissent prendre leur rupture conventionnelle. Donc, quand ils ont signé cette rupture conventionnelle, on a réussi à leur arracher 1 600 000 euros de rupture conventionnelle pour une entreprise qui a fermé, qui est en liquidation. Sauf moi. Et de là, j'ai déchiré ma convention, la transaction, et je suis parti en roue libre, et c'est de là il y a eu le Covid. Donc quand il y a eu le Covid, on a réquisitionné les lieux parce que la plupart des habitants ils n'avaient pas peur de mourir du Covid, mais ils avaient peur de mourir de faim. Et nos amis de la rue, ils étaient livrés à eux-mêmes. Ces habitants, la plupart, les instituts faisaient du télétravail, mais quand on a bloqué leur compte, il n'y avait personne pour répondre à leurs besoins. Donc on a réussi à créer cette plateforme d'entraide et on a essayé de combattre cette misère du mieux qu'on pouvait avec cette machine de guerre qui a été créée par l'intelligence collectif, que ce soit des infirmières libérales, des sans-abri qui étaient avec nous, des salariés, des syndicats. On s'est dit, bon, quand il y a eu la fin du confinement, on s'est dit, merde, la misère, elle n'a pas d'odeur, ni de couleur, ni de frontières, mais pas de week-end, ni de vacances non plus. Comment on peut faire? Mais nous, on ne voulait pas faire de la charité, mais on voulait remettre du travail. Donc on s'est dit non, on ne peut pas laisser tomber ça, on va délocaliser tout ce qui est entraide au fond du parking et face au restaurant, et on commence à monter ce Fast Social Food. Donc quand on a réussi à monter ce Fast Social Food, aujourd'hui nous sommes contents et contentes que ces salariés, ils savent pour qui, pourquoi ils travaillent. Et la clientèle, quand elle vient se restaurer, elle sait où son argent y va. Parce que tous nos excédents partent pour nos amis de la rue, pour faire des repas chauds ou pour faire des colis alimentaires. On a à peu près entre 700 et 800 colis chaque lundi qu'on distribue. Grâce aux infirmières libérales, quand elles étaient en roue libre et elles ont fait naître la maison de l'infirmière, elles avaient une patientèle qui était fragile en santé, mais elles avaient le frigo vide. Donc Livia qui avait participé aussi, qui est là, tu la vois. Et on a commencé à créer le Uber solidaire, qui veut dire union de bienveillance pour des repas d'entraide solidaire. On aime bien hacker, détourner, comme McDo dit, venez comme vous êtes. Nous on dit, comme vous êtes, vous venez l'être avant le paraître. Et de là, ce village d'initiative d'entraide s'est transformé en projet de vie, qui veut dire village d'initiative d'entraide. Ce projet de vie, donc, on trouve la distribution, la livraison des colis alimentaires, il y a la conserverie pour travailler sur l'anti-gaspi, parce que nous sommes l'avant-poubelle. On trie ce qu'on peut donner et le reste, on voudrait le transformer. Et ensuite, on est en train de monter un projet sur la méthanisation pour faire revaloriser nos déchets, tout ce qui est fruits, légumes, qu'on ne pourra pas redistribuer ou retransformer. On pourra le mettre dans le méthaniseur qui pourra se transformer en biogaz. Ce biogaz, on pourra cuisiner pour nos amis de la rue avec. Et ça pourrait, le reste, se transformer en engrais très fertilisant. Donc, ce projet-là, nous sommes contents et fiers qu'on a pu le réaliser avec, sans argent, des pouvoirs publics, avec des citoyennes et des citoyens, avec une énergie, une force qui, aujourd'hui, on a réussi à créer ce monde d'après, comment on pourrait le voir dans ce monde de travail. On souhaiterait, oui, peut-être créer une franchise sociale à but non lucratif, mais qui pourrait se poser dans chaque territoire, mais qui ne ressemblerait pas à la prime, mais qui ressemblerait au territoire.
Mais si tu réponds à toutes mes questions en avance, après je pourrais plus t'en poser. Mais
désolé d'être très long, désolé de rentrer dans des petits détails. Pour nous, c'était important de transmettre certains...
Mais en tout cas, j'ai l'impression que je retiens de... Enfin, j'ai l'impression que vous avez fait une espèce de rêve américain syndical. Et que y a... Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que des fois, j'ai l'impression qu'on finit par croire que le néolibéralisme payerait plus que les luttes. Et j'ai l'impression que c'est bien de construire ce discours que, en fait, si les luttes, ça paye, et que même si c'est laborieux, que ça passe par mille chemins, en fait, c'est intéressant de faire ce parcours-là. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on avait envie d'avoir cet exemple de panel avec des histoires plus ou moins récentes. Et du coup, merci pour ce partage.
Mais nous aussi, on remercie aussi, parce que ce qui nous a inspiré, c'est... Le combat des Fralib, 1336, nos grands frères aussi qui ont lutté fort, il y a Lip aussi. Donc sans ces luttes-là, on n'aurait pas pu s'inspirer de préserver l'outil de travail. Et l'outil de travail appartient aux travailleuses et aux travailleurs.
Voilà. Merci. Vous voulez prendre la suite ?
On va essayer.
Vous voulez que je repose la question ou ça va
je veux bien. Non mais comme ça, parce que je les ai à peu près, mais...
qu'est-ce qui vous a réunis comment vous politisez vos situations quelles sont les particularités de vos usagers, je ne sais pas si on peut parler en ces termes, mais comment vous avez construit votre lieu.
Ok. Déjà, tout d'abord, pour situer un peu historiquement, Mémoire des sexualités, ça date de... Bon, il y a plusieurs façons de faire son histoire, mais ça date... de 1984, donc c'est une association qui est assez ancienne et qui a été cofondée par un ancien des groupes de libération homosexuelle de Marseille qui s'appelle Christian Deleuze et qui, suite à un procès qu'il a eu contre Paris Match, avait récolté un peu d'argent parce qu'il s'était retrouvé outé par Paris Match lors des premières universités d'été homosexuelles à Marseille. Et du coup, il avait cette intuition et déjà cette habitude que de collecter, de garder des documents en lien avec... il y avait eu mai 68 et les luttes... en tout cas, les espaces homosexuels dans lesquels il commençait à s'engager. Et il avait un peu cette intuition qu'il y avait potentiellement une disparition de l'histoire des luttes, de leurs traces. Et c'est une intuition qui s'est avérée juste... à plusieurs reprises, puisque l'association est créée en 84 et dans les années dites, dans les années SIDA, il y a effectivement eu cette tendance des proches de personnes décédées aussi à faire disparaître les documents et les traces de l'homosexualité, de la séropositivité de leurs proches. En fait, il y a eu plein de moments qui ont montré que c'était une bonne intuition et que l'association avait vocation à conserver les traces des luttes individuelles, collectives. Et donc, c'est parti un peu de là. Et nous, pardon.
Vous vous rappelez quand même qu'il fait partie, si je
crois que... Oui.
Qui faisait partie aussi de ceux qui...
Je connais bien Christian Deleuze, ouais. Puisqu'on était sur l'histoire du Centre social Belzunce. Il faut rappeler aussi que régulièrement, il allait, quand il y avait toutes les inaugurations par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on oubliait souvent que les homosexuels ont été assassinés, oubliés, et qu'ils n'étaient pas reconnus dans ces hommages-là.
Oui, oui. Enfin, c'est une des grandes luttes de Christian et de mémoire depuis pas mal, enfin, en tout cas assez tôt dans l'existence de mémoire, c'est la mémoire de la déportation pour motif d'homosexualité. Et même si voilà, c'est un sujet qui est devenu médiatique et connu du grand public un peu plus tard, plutôt en 94 avec Pierre Selle, qui est le premier homosexuel qui témoigne directement en tant que déporté homosexuel français, puisque lui venait de Mulhouse et avait été mis en camp à côté de Mulhouse pendant une année. Enfin, il y a une biographie, une très belle autobiographie qui est disponible à mémoire par ailleurs. Mais du coup, ce qui nous réunit, je déplace un peu le nous et peut-être que tu veux prendre la suite, Granium, mais c'est 2018 où, en gros, Christian, sous l'impulsion, enfin encouragé par plusieurs personnes, convoque une espèce de réunion publique au Théâtre de l'Œuvre pour poser la question de ce que vont devenir tous ces documents qu'il aura collectés à ce moment-là pendant 35 ans. Et il pose un peu la question aux personnes qui auront bien voulu venir à cette réunion publique, qui en avaient été informées. En gros, qu'est-ce qu'on fait de ces archives? Est-ce qu'on les donne aux institutions? Est-ce qu'on les dispatche entre bibliothèques, MUCEM, archives départementales, etc. Alors que lui avait un peu fait le tour de ces institutions, se rendant compte que ça allait être ce qu'il appelait un enterrement de première classe, c'est-à-dire, en gros... une impasse, donc en gros des documents qui deviennent impossibles à consulter et qui sont triés par un regard supposément universaliste. Or, bon, bah, c'est pas exactement le regard qu'on souhaite adopter, nous. Et donc depuis 2018, ce jour-là a été redécidé, réaffirmé la volonté de confier la gestion des archives et de la documentation aux communautés elles-mêmes. Et donc depuis lors, donc le collectif qui s'est formé autour de Christian œuvre un peu au partage et à la possibilité pour tout le monde de consulter, de participer aux activités de l'association et d'avoir accès à ces documents qui étaient un peu chasse gardée des chercheurs et de Christian.
Ouais, du coup, je vais juste ajouter, moi, j'ai rejoint le collectif dans 2022, du coup, assez récemment, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est complètement autogéré. On est dans un appartement 52 rue d'Aix, et dans cet appartement, c'est un espace assez grand pour les archives. Et comme Robin a dit, en fait, on est... acheter un nouveau local avec une donne mystérieuse. Boulevard de Libération, et du coup, cette vente, c'était fini en janvier cette année. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travaux. Du coup, maintenant, on cherche l'argent dans tout l'espace possible pour faire tous ces travaux-là, pour que c'est un espace accessible et aussi peut être utilisé par les autres collectifs, par les autres, pas forcément juste mémoire de sexualité. Et en plus que ça, ça va être aussi la maison de gens de lutte, une archive trans à Marseille. Du coup, ça serait pas seulement mémoire de sexualité. Et juste pour ajouter, oui, maintenant on est un collectif c'est pas toujours le même numéro de gens qui est impliqué, mais quand même, je pense que c'est une 15 personnes. C'est 100 personnes qui disent qu'ils sont impliqués, mais en vrai, c'est ça qui est, je pense, le plus difficile. Pour parler de le fait que, bien sûr, dans le collectif, on est tout mélangé de plusieurs classes, plusieurs âge aussi, plusieurs identity, et je pense que ça joue aussi dans le niveau de heure ou time. Tu peux donner à une association bénévole parce que c'est va, parce qu'on parle de travail, je pense que c'est important de dire. On est, waouh, toi tu peux ajouter quelque chose à ça, mais on est bénévole et c'est donc beaucoup d'énergie. Par exemple, la semaine dernière, on a fait un festival. On a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour la tâche et on n'était pas payé. Et c'est, je pense que c'est important de dire ça parce qu'en vrai, je pense que c'est très cool que c'est autogéré cette archive, que c'est accessible et qu'on ne prioritise pas la recherche ou le journaliste de venir. On prioritise la personne qui va juste chercher dans les histoires pour eux-mêmes. Et ça peut être les élèves d'un lycée, ça peut être le grand-mère de quelqu'un, ça peut être tout le monde, mais que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense que pour moi, c'est pas mal de questions pour l'avenir de nous aussi, comment on peut continuer à exister dans le temps le plus duré possible. Mais, ouais.
Et tu veux continuer ou, enfin, tu veux rajouter quelque chose?
Je t'écoute.
Non, mais je pense que cette question du temps... et de justement comment on arrive à destiner du temps à la lutte et comment on construit l'engagement sur le long terme, parce que souvent c'est pour obtenir des victoires, ça prend beaucoup de temps. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres collectifs, je sais pas, par exemple Zora, pour l'organisation de la marche, ça s'est passé comment? Et moi j'ai une question très pratico-pratique. Pendant la marche, vous dormiez où? Enfin, ça se passait comment? Enfin, c'est un peu nul comme question, mais juste comment est-ce que, comment vous avez, ça a duré presque 2 mois, tout le temps de la marche?
Alors oui, donc il faut quand même, et c'est là qu'on va parler de précarité, il faut quand même dire des réalités. Effectivement, à Marseille, il n'y a pas de marcheurs permanents. Les marcheurs permanents, c'est ceux qui sont partis de Marseille, qui ont traversé la France et qui sont arrivés le 3 décembre à Paris. Donc, nous, à Marseille, on était, pour certains étudiants, travailleurs, et on n'avait pas la possibilité de partir faire cette marche. Donc, le groupe qui est parti de Minguettes. Bon, je sais que ça leur plaît pas beaucoup, mais je fais partie aussi de ces gens-là. C'est qu'à l'époque, quand je dis je travaillais dans un snack et je n'étais pas déclarée. Donc j'étais une travailleuse précaire. Oui. Et donc si on prend donc les marcheurs qui sont dont on parle encore aujourd'hui, donc Djamel Atala que je connais bien, Farid Lawa. Lui était déjà salarié, donc c'est autre chose. Il y avait Malika Boumediene, elle, à l'époque, elle ne travaillait pas. Il y avait Arbi Rezgi qui ne travaillait pas. Il y avait Youssef Sekimi. Bon, je ne vais pas donner la liste de tout le monde. Il y avait aussi donc pas mal de gens qui ne travaillaient pas et qui ont pu partir comme ça. Alors, comment s'est passé l'accueil? Donc, effectivement, nous, quand ils sont arrivés à Marseille... On était un groupe de militants et de collectifs donc autour de donc Radio Gazelle, mais il y avait aussi la CIMAD, puisque le père Delorme est de la CIMAD. Il y avait le pasteur Costil, puisqu'il y avait aussi donc les protestants. Il y avait quelqu'un qui était connu par ma génération, donc qui s'appelle Baya Boun Jurke, à qui on a donné son nom de rue cette année. La mairie a donné son nom à une rue. Et qui était donc une ancienne membre du FLN, donc Front de Libération Nationale pour l'Algérie, donc communiste. Et le MRAP n'était pas trop d'accord pour cette marche. Il y avait l'ALCR, donc la Ligue communiste révolutionnaire, et puis des personnes lambda. Et donc l'accueil s'est fait comment? Ben, je pense que dans toutes les villes, ça a été comme ça. Ça a été une organisation, c'est-à-dire que les personnes les étaient accueillies et ont trouvé des hébergements. Et c'était comme ça que ça se passait. Par exemple, si on prend sur Salon, il y a une personne qui accueille les marcheurs. Donc quand ils sont partis de Marseille, ils étaient, je crois, 17. Et c'est lui qui s'est débrouillé pour Donc, faire en sorte qu'il y ait un accueil dans un centre social pour que les jeunes marcheurs puissent venir expliquer pourquoi ils marchaient.
Mais du coup, concrètement, au départ, ça commence avec 17 personnes.
Ça commence avec 17 personnes, donc 17 jeunes des Minguettes. Enfin, non, 17, 15 jeunes des Minguettes et le curé et le pasteur. Donc,
et quand vous arrivez à Paris, il y a combien de personnes ?
Quand on arrive à Paris, il y a 100 000 personnes. Et effectivement, donc, la marche, si elle a eu du succès, c'est parce que, comme le disait Kamel tout à l'heure, quand on arrive à un succès comme ça, c'est pas un hasard. C'est qu'il y a eu des luttes avant. Effectivement, octobre 61, les Algériens jetaient à la Seine. C'était donc le FLN qui manifestait contre le couvre-feu. Dans les années 73, quand il y avait les ratonnades et l'attentat contre le consulat d'Algérie, il y a le monde des travailleurs arabes, parce que certains pensent que les travailleurs arabes baissaient les chines et disaient rien. Effectivement, non, ils baissaient pas les chines. Le mouvement des travailleurs arabes, qui s'est constitué quand même sur la lutte du peuple palestinien, s'est battu contre le travail. Donc les conditions de travail étaient intolérables. Ils n'avaient pas de carte de travail, donc les patrons les utilisaient comme ils avaient envie. S'ils n'étaient pas employables, comme on dirait un patron, ils étaient virés. Et effectivement, ben, à côté de ça, et c'est là où il y avait quand même un souci avec les camarades de la CGT, puisque majoritairement, les gens étaient à la CFDT à l'époque, les travailleurs arabes, parce qu'ils n'entendaient pas que quand on était travailleur, quand on est travailleur blanc, entre guillemets, je prends le mot blanc pour comme ça, comme c'est pour être plus simple, ben, quand il rentrait chez lui, il n'avait pas d'autre lutte. Par contre, quand le travailleur immigré rentrait chez lui, il fallait qu'il se batte pour trouver un logement, il fallait qu'il se batte parce qu'il n'avait pas de la carte de 10 ans, il fallait se battre sur plein de questions que les autres n'ont pas. Et donc, c'est ça qui fait que, effectivement, nous, on est des descendants de ces personnes qui ont lutté avant nous. Et nous, à 20 ans, quand on a 20 ans, 83, on vit ce qu'ont vécu donc, avant nos anciens, c'est-à-dire le mépris de classe, de race et de genre, parce que, effectivement, la question du genre, elle existait aussi, puisqu'il y avait quand même une minorité homosexuelle arabe. On n'en parlait pas, c'était tabou. Mais à côté de ça, il y avait quand même des convergences. Quand je parle de Christian Deleuze, pour moi, Christian Deleuze, on était au centre social Belzunce. Pour ceux qui connaissent le centre social Belzunce à l'époque, c'était un centre social où il y avait pas mal de militants originaire des quartiers nord, et il y avait toute la question des travailleurs immigrés, ce qu'on appelle Chibani, qui erraient dans le quartier. Pourquoi ils erraient dans le quartier ? Parce qu'ils habitaient dans des hôtels meublés tenus par des marchands de sommeil, qui louaient une chambre à plusieurs personnes qui vivaient à l'intérieur, et dans la journée, ils les mettaient dehors, et ces chambres étaient utilisées aussi par la prostitution, c'est-à-dire qu'on exploitait aussi le milieu de la prostitution, puisque ça permettait aussi, donc aux marchands de sommeil, d'avoir un paiement pour la nuit pour les travailleurs, mais aussi par les prostituées la journée. Voilà, donc, pour dire donc, tout ce qui s'est passé, c'est des histoires de lutte. Effectivement, peut-être pour rejoindre un peu le McDo, il faut rappeler que dans ce lieu-là, à l'époque, c'était des bidonvilles et il y avait eu des luttes. Et effectivement, il y a eu des convergences, c'est-à-dire que Kamel dit « je suis gilet jaune », c'est avec les gilets jaunes qu'on découvre les violences policières. Mais nous, on leur dit, hey, Coco, les gilets jaunes, il est plus jeune que moi. Donc, nous, on a connu les violences policières. Merci, par contre, de pouvoir le visibiliser. Donc, toutes ces luttes-là, elles se visibilisent parce qu'il y a en même temps des convergences de lutte. Et donc, pour revenir donc, sur la marche, effectivement, il y avait 17 marcheurs qui partaient des Minguettes. 100 000 à Paris. Pourquoi il y a eu 100 000 à Paris? Il faut le dire. Peut-être que la marche, elle n'aurait pas eu ce monde-là si, je crois que c'est le 14 novembre ou le 16 novembre, je ne sais plus, dans le train Bordeaux-Vintimille, trois appelés futurs légionnaires ont tué un Algérien. 190 passagers dans le train Bordeaux-Vintimille, personne n'est intervenu. Il n'y a que l'agent de la SNCF qui a essayé de le mettre dans un endroit, mais les légionnaires ont fini par le trouver. Ils l'ont massacré devant 190 personnes. Il a été jeté dans du train. Et là, ça a été un choc. Et je pense que c'est ça qui a fait que tous les collectifs, que ce soit Marseille, Lyon, Nanterre, etc., Toulouse, Lille, Strasbourg, Le Mans, etc., on a dit, non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à partir de là, nous, autour de Radio Gazelle, après, il y a autour de centres sociaux, comme le Centre social des Flamands, etc., on s'est dit, il faut qu'on monte, qu'on loue des cars et qu'on monte à Paris, parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de monde pour dire, nous sommes là, nous existons. Effectivement, nous sommes ici.
Et ça a été entendu, ça, une fois arrivé. Aujourd'hui, on en est où après ce qui s'est passé au début de l'été aussi, tout ça?
Ben, disons que quand on est arrivé 100 000 à Paris, bon, tout le monde était content, etc. La première chose, donc, c'était l'article avec le mot beurre, donc pour effacer. Et la deuxième, c'était la gifle du Parti socialiste avec François Mitterrand, qui a bien voulu recevoir les marcheurs à une seule condition, c'est qu'ils enlèvent les kéfiers palestiniens. Parce qu'il y avait le CRIF et l'Union des étudiants juifs de France à tendance sioniste qui ont eu peur de l'arrivée de tous ces Arabes avec des kéfiers. Donc, 40 ans après, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, effectivement, le bilan, il n'est pas beau, hein, puisque... on va dire 42 ans après Lawari Ben Mohamed, un autre policier tue sur un jeune Nahel. Et qui lui donne le permis de tuer? C'est la loi de 2017 qui a été votée sous le mandat de François Hollande, encore un socialiste. Et un an après, donc, il y a eu deux autres marches. Il y a eu Convergence 84 et l'année d'après, en 85, la marche pour les droits civiques. Mais en 1984, qu'est-ce qui s'est passé? Le Parti socialiste qui a eu peur, et c'est ce que dit Kamel quand tu parles de multinationales, ils ont vu arriver une jeunesse des quartiers populaires en disant, on va 10 ans. Et en disant, hey, on est là et on ne va pas vous laisser faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont créé ce SOS Racisme qui a effacé l'histoire de la marche, qui a mis la main « touche pas à mon pote ». Donc, c'est un slogan raciste et paternaliste, c'est-à-dire que, comme si nous, on était incapables de nous occuper de nous-mêmes. Pour nous, Marseille, ils n'ont pas pu s'installer à Marseille. À Paris, ils ont beaucoup réussi. Mais ils ont réussi pourquoi? Parce qu'ils avaient la presse et parce qu'ils avaient des artistes. Et qu'on est passé, c'est-à-dire des luttes contre les violences policières, à des fêtes, des concerts, et tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On a effacé complètement la lutte, et c'est ça qui est reproché, et qu'on reproche 40 ans après. Et il se trouve que là, François Mitterrand, il est mort, c'est bon. Emmanuel Macron a invité les marcheurs. Heureusement que certains ont refusé, mais il y en a qui ont été. Pourquoi? Juste pour dire, nous, on veut transmettre l'histoire de la mémoire de l'immigration. Mais ce n'est pas ça le but de la marche. C'est de dire que 40 ans après, c'est-à-dire que nous, moi, je suis la deuxième génération, bon, qu'on puisse dire, je suis proche de mes parents qui étaient algériens, je veux bien, mais quand on est à la quatrième génération et qu'on a un mépris, et que ce mépris-là, il faut bien l'entendre, ce n'est pas lié qu'à l'origine. C'est aussi lié à la religion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je rappelais, bon, il y a quelques jours, j'ai fait une intervention à l'école des Beaux-Arts et j'ai demandé s'il y avait des gens d'origine italienne. Et plusieurs personnes ont levé la main et je leur ai dit aigues mortes. Il y a deux étudiants qui savaient ce que c'était aigues mortes. C'était quand même, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'aigues mortes, c'est en 1800 et quelques, il y a aigues mortes, beaucoup d'Italiens qui travaillent. Et quelqu'un fait courir un bruit comme quoi un Italien a agressé quelqu'un. Et là, il y a une grosse ratonnade. La police a été obligée d'intervenir. On a mis les gens dans le train et on les a ramenés sur Marseille. Certains sont repartis en Italie, certains sont restés en France et d'autres sont partis aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu des violences racistes et policières contre les Italiens, mais qui a été effacée aussi par la communauté italienne. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les Italiens peuvent devenir français, ils sont chrétiens. Mais la question de l'islam, c'est quelque chose, et de l'islamophobie, et on le voit aussi avec le... Parce que bon, je vais quand même donner un coup d'œil aussi aux personnes, pas sans papier, parce qu'ils ont des papiers, mais qui ont un problème administratif. C'est-à-dire que la loi Darmanin, elle continue à opprimer des gens. Et c'est ça qui fait que, 40 ans après, moi je suis un peu... en colère et d'autant plus que nous à l'époque on n'avait pas de députés fachos à l'Assemblée nationale et qu'aujourd'hui on en a 89 et qu'une partie de la droite est proche aussi des idées de Darmanin. Donc effectivement donc le racisme et l'islamophobie est intolérable et donc nous justement, je vous invite à y aller. Donc, et c'est une des batailles qu'on gagne, mais c'est une goutte dans l'océan. C'est qu'on a réussi à faire une expo qu'on a mis au musée d'histoire de Marseille pour parler des luttes de l'immigration. Effectivement, on a été financé par la mairie, mais la mairie n'est jamais intervenue pour nous dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous avons écrit ce que nous avons voulu. Et le thème, c'est même de l'expo, c'est quand il y a oppression, il y a résistance. Donc effectivement, donc 40 ans après, 40 ans après, on en a elle et on a eu ce qu'ils appellent les révoltes urbaines. Et pour moi, c'est pourquoi ces révoltes-là, pourquoi on va dire 4 générations après, des jeunes ne se sentent pas français. Voilà, donc toutes ces questions-là, ben, elles restent les mêmes, hein, c'est-à-dire que on est toujours sur des problématiques, c'est-à-dire que quand on s'appelle Zohra Boukhenouche ou Kamel Guémari, qu'on va se présenter à un emploi de cadre si on, avec nos diplômes, si on va rechercher un logement pas dans le quartier nord parce qu'on n'a pas envie d'être assigné à résidence... si on veut mettre nos enfants dans des matières ou des écoles spécialisées, on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le carnet d'adresse, etc., etc. Donc c'est vrai que 40 ans après, la situation elle est encore plus pire qu'avant.
Merci. Alors, ça va pas dans le sens de notre slogan, mais peut-être que...
Non, mais après...
Je vais pas...
Mais... Non, mais par contre, effectivement, la lutte, elle fonctionne que si il y a convergence. Effectivement, donc tout à l'heure, je parlais de Christian Deleuze, je le connais, on s'est croisés sur des actions. Tout à l'heure, on parlait du photographe Pierre Ciot sur d'autres actions, etc., etc. Et comme dit... Et pour parler de la Préhem, parce que pour moi, c'est vrai que la Préhem, c'est le village gaulois qui se rebelle. La Préhem n'a pu exister, c'est que parce qu'il y a eu convergence des luttes.
Et ouais, tout à fait. Alors, donc, je me rends compte que là, il y a plein de choses qui s'ouvrent et enfin, ça donne envie d'en parler pendant hyper longtemps. En même temps, je sais que j'ai une mission aussi de gardienne du temps et que peut-être aussi qu'à des moments, vous avez envie de réagir. Ça me donne juste envie peut-être de replacer le contexte de pourquoi ces journées. Donc, sur vos chaises, vous avez trouvé normalement un petit livret qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle, mais pour une continuité de revenus des artistes auteurs. Parfait, merci pour la petite, la petite triche. En gros, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est à un moment où donc, les artistes auteurs se retrouvent à se lancer dans des luttes collectives pour avoir un changement de régime par rapport à leur travail. C'est-à-dire, en vrai, le mot pour une continuité de revenus des artistes auteurs, ça veut dire pour que les artistes auteurs aient du chômage. C'est ça que ça veut dire. Et en fait, ça concerne aussi plein de travailleurs précaires. Enfin, il y a plein aujourd'hui de travailleurs qui travaillent avec le statut d'auto-entrepreneur qui ressemble beaucoup à celui d'artiste. Et en l'occurrence, je sens qu'en tant qu'artiste, on sent qu'on a aussi une responsabilité à militer aussi en notre nom. On peut faire plusieurs choix. On peut faire celui dont tu as parlé, qui n'était peut-être pas hyper judicieux à ce moment-là. Ou on peut aussi militer pour avoir un meilleur statut et arrêter de vendre le mythe de l'artiste créatif flexible qui travaille gratuitement. Et on peut devenir des artistes qui luttent pour leurs droits et pour le droit des autres et créer des alliances. Et je ne sais pas si vous arrivez à faire ce lien avec toutes les discussions qui ont été faites aujourd'hui. Mais voilà, enfin, j'ai l'impression que l'idée, c'était de justement vous inviter à rejoindre cette convergence. J'ai encore plein de questions, mais j'ai l'impression qu'il faut que je vous passe le micro. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Super, bon.
Là, je voulais juste réagir par rapport au fait que tu disais droit au chômage. Et dans ce livret, je vois qu'il y a Aurélien Catin qui a édité. Pour le coup, il est en ligne parce que je ne sais pas s'il a été réédité. Tout est parti. Notre condition au sujet du salaire à vie pour les auteureuses ou auteuristes. Enfin, moi, j'aime mieux. Et donc sur les questions de droit d'auteur. Donc je vois qu'il a participé et Réseau Salaria l'a reçu, enfin je crois qu'il est adhérent de Réseau Salaria, qui est une asso d'EducPop pour un salaire à vie pour toutes ceux, puisque nous sommes toutes et tous producteureuses. Voilà, du coup ce sera peut-être un sujet aussi à discuter.
Je ne sais pas si j'ai bien...
Robin, je peux faire une réponse directe avant de te passer le micro. On va en parler tout à l'heure à la table ronde de l'après-midi. Il y a Rémi Cardinal qui vient parler de la sécurité de la culture. Et je vais vous faire un petit point sur cette petite brochure.
Et je peux juste annoncer que moi, je participe à la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà. Du coup, c'est aussi des questions qu'on creuse sur différentes thématiques.
On a aussi Elodie qui est juste en face, qui nous parlera de ça tout à l'heure. Donc, tu nous prépares parfaitement l'après-midi. Tiens.
Bah, bonjour. Je vous remercie de vos interventions. Elles étaient très très riches, réellement, et d'autant plus apprécié que vous preniez le temps passé par certains détails, pas sexy justement, parce que c'est aussi un mensonge de rentrer dans une logique de linéarité et de succès. Hein, on sait tous que penser une lutte justement, sans prendre en compte les moments où ça marche pas, ça justement ça empêche que ça puisse avancer. Moi, justement, ce que je questionnais, en fait, les liens que chaque collectif entretenait avec les artistes, parce que justement. Les artistes aussi ont longtemps, on va dire, pris part à certaines formes de lutte dans la visibilisation. Et en tout cas, à faire un peu la jonction avec le grand public qui n'est pas initié. Ça peut prendre la forme de concerts qui noient le tout dans un espèce de gros malga. Mais justement, la question de la culture, on sait que les politiques aussi s'en servent pour un peu noyer le poisson. Par exemple, quand les restaurants du cœur, ça devient une tournée des enfoirés, on peut vraiment se poser... Et qu'à côté, On dit qu'il y a plus du tout, en tout cas les acteurs de terrain, à la fois dénoncent des conditions de bénévolat et de travail plus que difficiles. Voilà, la question de la non-redistribution, en tout cas, enfin, la question des acteurs issus des grandes entreprises à la fois donner leur poubelle, mais à la fois avoir un grand bénéfice. Ben voilà, moi je me pose la question un peu du rapport que vous entretenez avec les artistes dans vos luttes.
Est-ce que tu veux poser cette question spécifiquement à une personne ou est-ce que...
Non, réellement, parce que là, du coup, je pense que tout à chacun, là, vous avez une partie pour répondre.
Peut-être qu'on peut passer la parole à la permanence, comme ça.
Ben... On peut, je te laisse et puis après je lui dirai, parce que nous aussi on a eu des le monde culturel il a fonctionné quand même, je vous donnais le négatif mais je peux parler du positif aussi. Très bien. Non, bon, du coup on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail de ce zine de stats qu'on a fait sur les centres chorégraphiques nationaux. Du coup nous on est plutôt dans l'espace du champ chorégraphique, mais d'abord on s'est monté aussi parce que le champ chorégraphique c'est un champ qui est grave mou quoi politiquement, et que ça s'organise pas beaucoup, qu'il y a assez peu de relais syndicaux, qu'on est beaucoup aussi intermittents, intermittentes, et qu'il y en a beaucoup qui sont dans leur chasse gardée, un peu à l'aise sur la question de l'intermittence, et qui n'arrivent pas forcément à dépasser ce truc, et à se dire aussi comment on peut soutenir nos collègues artistes auteuristes, et qui en fait cherchent la continuité de salaire dont nous on bénéficie, et qui est de plus en plus précarisée, quoi. Et donc c'est aussi un enjeu pour les intermittentes eux-mêmes, quoi, elles-mêmes. Et puis juste pour plus globalement parler du champ de la culture, je pense qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet et de témoigner de la mollesse des artistes, du manque de radicalité même des institutions culturelles publiques qui valident, qui dénoncent pas ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, qui organisent rien dans ces espaces-là, qui font le jeu du pouvoir. Et là, très spécifiquement, il y a un truc assez parlant qui arrive, qui s'appelle la Relève, qui est un espèce de projet de Startup Nation de la culture qui va être organisé par la ministre de la Culture en partenariat avec Sciences Po et avec une espèce de start-up de diversité qui essaye de former les prochains start-upers culturels pour prendre des postes importants dans les institutions culturelles et devenir à terme les dirigeants, et qui sont pas du tout des gens qui viennent de ces endroits-là, mais qui sont plus formés à des techniques managériales et qui vont en fait à terme prendre des positions de pouvoir dans ces espaces, quoi. Et donc du coup c'est aussi important de se rendre compte que les travailleuses du champ chorégraphique, mais de tous les champs en fait artistiques et plus largement, doivent effectivement trouver des moyens de converger et aussi juste faire un point sur la question du racisme. Je pense que nous, le travail qu'on a fait, on l'a fait sur la question de la représentation des personnes non blanches sur les scènes françaises, qui est massivement pas remporté, mais en tout cas, quand il y a des personnes qui sont non blanches, c'est aussi des personnes qui sont pas françaises, qui sont extra-européennes, voire africaines, qu'on fait venir, brésiliennes. On met beaucoup en valeur les non blancs qui ne sont pas français, et les non blancs français, en fait, on les oublie. Bien sûr, les non-blancs, ils sont hyper minoritaires dans les scènes françaises, on va pas se mentir, et ça, on le savait en le faisant, mais c'est aussi pour arrêter de se cacher derrière les politiques inclusives, de diversité et tout, qui font un peu... qui récupère les luttes qui ont toujours été présentes dans ces espaces-là, dans les quartiers, et qui rendent compte aussi de la politique impériale française et qui continue à se transposer. Et juste par rapport géographiquement, les CCN, ce qui est assez intéressant de regarder, donc les centres chorégraphiques nationaux, ils sont que sur le territoire hexagonal, donc on va dire métropolitain pour souligner l'impérialisme. Et en fait, il y en a pas dans les dom-toms, quoi. Donc c'est assez fort aussi de rendre compte de quelle géographie est valorisée, quoi.
Et ça, en plus, c'est dans le même mouvement où tous les lieux culturels vont avoir des stratégies de tokenisation, donc de faire valoir, où ils vont inviter quelques rares personnes et se donner une image de diversité ou d'inclusivité. Et du coup, l'idée, c'est... j'ai l'impression qu'aussi, avec ces idées de proposition de loi, de salaire à vie, c'est aussi d'essayer de court-circuiter cette stratégie de récupération et d'avoir quelque chose de valable pour tous. Enfin, finalement, de donner des droits et pas juste de la visibilité. Mmh. Donc,
Oui, c'est aussi comment... Tokenisation, c'est faire... d'utiliser une figure. Par exemple, on va mettre une personne noire sur une affiche pour présenter une programmation dans un centre chorégraphique ou dans une programmation culturelle. Et ça va être en fait la seule de la programmation. Mais du coup, on va la mettre en avant pour valoriser une politique d'inclusion ou de diversité, quoi. Et j'avais un autre truc, mais j'ai oublié.
C'est peut-être aussi, tu sais, tu parlais des CCN. Peut-être revenir aussi sur la notion de, d'assignation, par exemple des danseurs et des danseuses à quand tu es issu d'une minorité non blanche, d'être par exemple assigné au hip-hop, ou enfin ça aussi c'est...
Oui, oui, et puis ce qu'on a pu observer aussi, c'est que très régulièrement dans les institutions culturelles, il y a des focus. Donc il peut y avoir un focus Afrique où on va inviter des personnes non blanches qui vivent au Canada ou enfin juste qui vivent pas du tout en Afrique mais qui sont noires, et donc il y a vraiment comme ça une sorte de d'exotisation toujours par l'étranger, mais il va y avoir aussi des focus queer en fait dans des programmations qui le reste du temps sont super straight ou hyper hétéronormées. Donc c'était aussi de... Enfin, en tout cas, le questionnement qu'on essaye de mener et les luttes qu'on essaye de mener s'engagent non pas à dire prenez plus de personnes queer dans les programmations ou plus de personnes noires. La question, c'est comment vous politisez ça à l'intérieur des institutions. Et ça suffit pas de mettre sur une scène des personnes queer ou des personnes non blanches. C'est à un moment donné, comment à l'intérieur même du travail et de ce système-là institutionnel, c'est réfléchi et c'est réfléchi collectivement en fait, et on se rend compte qu'il n'y a pas de changement à cet endroit-là.
Et juste une dernière chose par rapport à la question des assignations, effectivement c'est un peu marrant parce qu'il y a un espèce de double mouvement sur la question du hip-hop où effectivement on va avoir beaucoup de personnes non blanches alors que voilà, dans le ballet, la danse classique et tout, bon voilà, on connaît l'histoire, mais il y a un CCN, le CCN de Rennes, qui est représenté par le collectif Fer, du coup, donc avec des personnes non blanches et qui sont plus issues de la famille du hip-hop. Et dans le même temps, il y a les institutions, on va dire culturelles, spécifiquement chorégraphiques, qui ont envie de faire un diplôme d'État, donc en gros d'encadrer la pratique du hip-hop pour qu'elle puisse être à la fois transmise dans des écoles et des formations un peu plus classiques et aussi évaluée. Et donc il y a un gros mouvement de lutte contre ce diplôme d'État pour que en fait le hip-hop, qui a des origines populaires et de lutte, quoi, ne soit pas complètement assimilé dans ces institutions.
Oui, donc par rapport à la culture, donc il faut pas croire que on était que dans les luttes et qu'on manifestait tous les jours. Si on part de Marseille, après on parlera aussi un peu de Lyon, puisque quart de séjour c'est quand même important. Donc à Marseille, dans les années 80, après c'est aussi des histoires politiques, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elles disent, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux cultures, il y a une culture bourgeoise et une culture populaire. Donc effectivement, dans les années 80, il y avait une culture populaire qui a été assignée dans les quartiers. Si on prend le théâtre de la mer, qui a été créé par Akel Akian. C'est pas un Arménien, c'est un Marocain, malgré la consonance de son nom. Et Frédéric Fébuzet, le théâtre de la mer existe toujours, puisqu'aujourd'hui, il est parti des quartiers nord et aujourd'hui, il est à la Joliette. Donc, autour de Radio Gazelle, c'était une radio libre. Donc, effectivement, on faisait des fêtes, on faisait des concerts. Il y avait une troupe qui s'appelait le théâtre Internou. Internou, c'est-à-dire qu'il nous appartient, avec donc Ferhat qui était Ferhat Ayari, qui était un qui venait du bled, donc on l'appelait, qui a un fort accent tunisien que j'adore, qui a fait du théâtre populaire dans les quartiers. Il y avait le groupe Quartier Nord, donc qui est très politisé, donc et effectivement. Pour revenir sur le hip-hop, on peut prendre Jean-Pierre Hégat, pour ceux qui connaissent, qui est d'origine antillaise, qui a monté une troupe à la Busserine où c'était assez mélangé. Il a été même jusqu'aux États-Unis pour se former un peu plus. Mais je veux dire, en France, on n'a jamais dit on va aider ces jeunes-là à sortir du quartier. Il y a Moussa Maskri qui est un acteur qui a joué dans un film connu, Taxi pour les jeunes. Donc il y a toute une génération qui est culturelle qui existait. Il y a Jo Corbeau, pour ceux qui connaissent Jo Corbeau, c'était un des premiers reggaeman marseillais, d'origine arménienne, juive, arabe, comme il se présente lui-même. Donc effectivement, il y a tout un champ culturel qui existe.
Et qui n'était pas soutenu.
Mais non, ce champ culturel existait. Et ben effectivement, il y avait des subventions pour les faire fonctionner, etc. Mais jamais les politiques se sont dit, comme il y a la cité de la musique là en centre-ville, on va créer une cité de la musique dans les quartiers nord, un groupe de théâtre, etc., etc. On reste dans l'amateurisme parce que les personnes de culture populaire doivent rester dans l'amateurisme. Mais ça, après, c'est la culture française aussi. Parce que quand on prend par exemple les pays de l'Est, les grands musiciens ne viennent pas obligatoirement de la bourgeoisie. Bon, ça a changé entre-temps. Mais effectivement, la culture, elle existe, mais elle doit rester dans les quartiers. Le seul qui a réussi, donc c'est Rachita, mais avant d'être Rachita, il y avait le groupe Quart de Séjour. Donc c'est un groupe lyonnais qui faisait du rock. Et pas du rock arabe, parce que ça l'énervait beaucoup, Rachita, qu'on dise c'est du rock arabe. Non, c'était du rock. Et c'est le seul, si on va prendre les années 80, c'est le seul qui a quitté le groupe Quart de Séjour et qui est devenu chanteur tout seul. C'est le seul qui est ressorti. Quand on regarde dans le cinéma, il y avait Smaïn. Il a disparu. Et donc, et c'est vrai que on a la culture par rapport au gouvernement que nous avons. Quand on
Mais surtout si c'est géré par une logique de l'aide où, en gros, il faut convaincre qu'on mérite de faire ce qu'on fait ou pas. Enfin, en fait, il y a des critères et ça veut dire qu'il y a des gens qui choisissent qui mérite, qui ne mérite pas. Et du coup, forcément, ça trace des carrières ou pas.
Oui, par exemple, il y a un acteur qui s'appelle Saïd Tamgawi, qui est connu, assez connu par les jeunes. Il n'a pas percé en France, il a été aux États-Unis. Donc, voilà, donc c'est vrai que c'est comme toutes les actions, c'est-à-dire que toutes les actions, à partir du moment où elles sont populaires, elles ne peuvent rester que populaires suivant le gouvernement qu'on a. C'est vrai que dans les années 80, même si je crache sur François Mitterrand, et je continue à le cracher dessus, il y a eu quand même, à un moment donné, une ouverture sur les associations issues de l'immigration, parce qu'à l'époque, les associations ne pouvaient pas se créer si on était de nationalité étrangère. Il a permis un foisonnement des associations, etc. Mais comme aujourd'hui, nous sommes dans une période de grand libéralisme, toutes les associations, toutes les structures d'éducation populaire, elles disparaissent.
Est-ce que, peut-être avant de repasser la parole, est-ce que peut-être Camille, tu as envie de réagir sur ces alliances possibles ou pas et qu'est-ce que ça t'inspire ?
Déjà, dans le cadre du travail sexuel, la première alliance à faire, elle est simple, c'est qu'une partie des TDS sont en fait des artistes, puisque un acteur porno, c'est avant tout un acteur, que les strippers, ce sont en fait des danseurs. Et déjà, lutter pour faire reconnaître ça, parce que souvent, dans le milieu de l'art, il y a une certaine partie de la population qui va vouloir bien se différencier d'une production qui serait noble et artistique à une autre production qui serait vulgaire et dégradante. Et donc ça n'aide pas du tout à l'émergence d'une conscience de classe et d'une solidarité de classe. Donc je pense que la première alliance, elle serait à faire à ce niveau-là, de lutter ensemble pour les franges du TDS qui ont les mêmes statuts que ceux des artistes. Et puis oui, ça pose aussi la question des représentations de la sexualité. Qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on vénère et qu'on accepte et qu'on met au rang du respectable? Et qu'est-ce qu'on va dévaluer? Et le fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est assez visible dans le milieu de la pornographie, que ça va être les productions qui ont beaucoup d'argent et de passe-droits qui vont inonder la production culturelle pornographique avec toutes les problématiques en termes de représentation et de conditions de travail que ça va impliquer et qu'il est aujourd'hui difficile pour des productions pornographiques qui voudraient montrer autre chose que du sexe hétéronormé d'arriver à gagner sa vie de ça, à trouver sa place et à trouver une certaine forme de respectabilité dans le milieu artistique aussi. Donc je pense que les liens peuvent être faits à ce niveau-là.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Je voulais te parler un peu de la place des artistes chez nous. Ça a été un moment, une rencontre extraordinaire. Et ça nous a permis de refaire le tour du monde. À travers comment arriver à nourrir l'esprit, le cœur et le ventre. On a essayé de transformer ces larmes de peine par des larmes de joie à travers ces couleurs. Qu'il faut qu'il rayonne sur notre œuvre d'art, parce que le bâtiment et la prime qu'on a pris ces lettres, on les a transformées, le P en D, le A en E, le N on l'a coupé en R, c'est un travail artistique. Donc pour nous, qui veut dire association de préfiguration pour un restaurant économique et social. Donc on essaye de pousser un peu le bouchon loin. Et pour nous, c'est l'art de la lutte. C'est comment on peut arriver à lutter avec tout en essayant de reprendre leur code, comme on disait sur les enfoirés, sur les. Aujourd'hui, on est content que la compagnie Rara Olib et d'autres, la Cité des Arts de la Rue et d'autres camarades qui sont joints à notre lutte qui est la leur aussi, à essayer de faire rayonner ce lieu et de donner des moments magiques. Et à chaque acte qu'on posait dans ce lieu-là, on essayait de le réfléchir, qu'il soit artistique et surtout politique, donc qu'il puisse avoir un sens. Et bien sûr, une lutte sans artiste, c'est comme une voiture sans carburant.
Oui, bonjour, Irène Ruchniewski. Je suis co-secrétaire générale du SNAP-CGT. Sur la question, je pense que la question de l'art dans les luttes, c'est une question complexe. C'est une question complexe depuis longtemps et pour des tas de raisons. Parce que souvent, moi je me souviens, j'avais participé en 2004 au Forum social européen pour le SNAP et j'étais dans la commission culture. Et là, la commission culture, elle était comment les artistes peuvent aider pour faire nanana. Considérer les artistes, non pas quelqu'un qui peut aider en apportant sa petite touche colorée sur le truc, mais en tant que travailleur solidaire, c'était difficile à faire entendre. Donc là, je trouve que les exemples qui ont été cités sont plutôt réchauffants et rassurants, puisque bon, on voit qu'il y a vraiment une intégration des choses, mais c'est pas évident. Je veux dire, il y a tout un tas, effectivement, de causes tout à fait valables et qu'on défend et pour lesquelles, par exemple, on va demander aux artistes plasticiens de donner une œuvre pour organiser une vente, pour réunir des fonds, pour soutenir telle ou telle cause. Si vous regardez dans cette petite brochure, si vous regardez les niveaux de revenus des artistes auteuristes, eh ben, on peut s'apercevoir que si on leur demande encore de donner une œuvre, il ne s'agit pas non plus de leur interdire de le faire. Je veux dire, tout le monde, si on peut apporter le soutien d'une façon, de la façon qu'on choisit. Mais il faut justement avoir le choix, comme disait Pierre ce matin. Et sinon, je voudrais parler un peu de forme des luttes. Forme des luttes, ça, c'est un mouvement qui s'est constitué en 2019 au moment de la première réforme Macron des retraites. Donc quelques graphistes qui se sont mis ensemble pour faire des images autour du thème. Alors à l'époque c'était la retraite à points, donc autour du thème de la retraite à points. Alors c'était quelques graphistes, je ne sais pas, un petit groupe, puis petit à petit. Il y en a plein d'autres qui sont venus s'agglomérer. Là, maintenant, il y a, je ne sais pas combien, il y a 100... Hein, combien ?
300.
300. Donc, on crée des images, on édite des autocollants qu'on distribue dans les manifs autour des luttes. Voilà, c'est une forme où on fait aussi des affiches en sérigraphie qu'on distribue comme ça. Et donc là, on est vraiment intégré vraiment à l'intérieur de la lutte, quoi, et non pas simplement le petit ruban autour.
Ouais, et vous avez une table avec justement des autocollants de forme des luttes dans la petite pièce à côté. Et en tout cas, par rapport à ce que tu disais, je sais que aussi, je ne sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça, mais il y avait aussi l'idée de peut-être à un moment, il y avait quelqu'un qui marquait la distinction entre la solidarité et l'entraide. Et je crois que cette journée, c'est vraiment un appel aussi à ce que les artistes prennent en charge leur propre lutte pour pouvoir construire des alliances en suivant ça. Mais je te laisse compléter.
Je reste debout. C'est parce que j'ai voulu m'asseoir dans le fauteuil de Pierre Chiot. Que je l'ai choisi, mais il est quand même très bas. Donc Pierre Sous, c'est un camarade de très longue date qui alterne avec moi de temps en temps la présidence de la SAIF, la SAIF, Société des auteurs de l'image fixe. En ce moment, il est vice-président. Guillaume Lanneau, président, camarade du SNAP. Et c'est dans le sujet. Le sujet, les luttes, ça paye. Les luttes, ça paye, ça veut dire comment on s'organise. Le secteur des arts visuels, le plus important des secteurs de l'activité artistique, le plus important au nombre de personnes, le plus important au nombre de retombées financières, est celui dans lequel où les travailleuses et les travailleurs sont le plus mal rémunérés. Voilà, ça c'est la situation. Et dans ce cadre-là, les organisations professionnelles, il y a 24 ans, ont décidé de créer un outil pour que les luttes, ça paye, qui s'appelle cet outil, la Société des auteurs de l'image fixe. C'est une société d'auteurs. En fait, tout le monde connaît la SACEM. Il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de compositeur qui ne connaissent pas la SACEM, parce que c'est juste, voilà, ça fait partie du métier. Pour les arts visuels, la SAIF ou la SEF, c'est une société d'auteurs qui vous rapporte des sous, des ronds. Et vous êtes pauvre, en général. Si vous êtes riche, ça vous rapporte des ronds aussi. Alors, c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est le début d'une sorte de garantie de revenus. C'est un tout petit bout, un tout petit début. Le principe, c'est que ça récupère des ronds sur de vastes collectes qu'on appelle la copie privée, Internet. Enfin, je ne vais pas faire un topo là-dessus, les bibliothèques. Enfin, y a de l'argent qui arrive dans un organisme qui s'appelle Copie France, qui est distribué ensuite à des sociétés d'auteurs, dont la SFP fait partie, mais aussi la SACEM, hein, bien sûr, et les très grosses. Mais en adhérant à la SEF, à une société... pourquoi il n'y a pas écrit la SEF, là ? En adhérant à cette société d'auteurs, vous êtes assuré de toucher tous les ans quelques dizaines, quelques centaines d'euros de droits d'auteur. Voilà. De droits d'auteur collectif, issu de lutte contre Google, par exemple. Si vous adhérez à la SEF, vous toucherez quelques dizaines d'euros jusqu'à une centaine, 120 euros, voilà. Et vous les toucherez pour Noël. Chaque année. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même, ça c'est unique dans le monde qu'on ait réussi à faire payer Google. Personne d'autre n'a réussi à le faire. Hein? Meta l'année prochaine, on espère qu'ils vont payer aussi. Alors voilà, j'interviens pour que les luttes, ça, le fait que vous soyez venu là, ça vous ait rapporté un peu d'argent. Vous vous inscrivez à la SEF si vous n'y êtes pas. C'est 15,24 € une seule fois à vie, et vous n'avez même pas besoin de payer, ça sera déduit de votre premier versement de droit d'auteur. Merci.
Oui, et vous avez les bulletins d'adhésion sur la table là-bas. Voilà.
Et plus vous tardez, moins vous touchez.
Moi, je voulais juste intervenir. C'est plus une remarque, c'est pas vraiment une question, mais par rapport à ce que tu disais, Camille, et un peu tout ce qui a été dit sur le fait qu'on voit que la convergence des luttes, c'est ça qui fonctionne et c'est nécessaire. Et qu'en tant qu'artiste, auteur, autrice, on est souvent accusé à raison d'être assez égoïste et centré sur nous-mêmes et très éclaté, etc., pour plein de raisons aussi structurelles, etc. Mais je pense que pour qu'on réussisse à converger ensemble entre artistes, il faut qu'on réussisse à se défaire des hiérarchies entre les arts, entre les cultures, entre les artistes qui sont imposées aussi par des sélections, par une histoire de l'art qu'on nous apprend, et après qu'on assimile au point de regarder avec dédain certains lieux quand on est invité à certains endroits. Enfin, moi, je dis ça parce que c'est des choses que j'ai pensées. Enfin, j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai été matrixée aussi par cette éducation, pour plein de raisons, quoi. Et du coup, regarder certains lieux avec dédain ou d'autres artistes comme ayant moins réussi ou des choses comme ça. Et en fait, il faut absolument arrêter de penser comme ça et de se regarder. Enfin, si on veut réussir à lutter ensemble, il faut réussir à se voir en tant que travailleur et comme une classe de travailleurs en soi et pas comme des concurrents, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir ?
Je vais rajouter un truc par rapport à ça, et qui revient aussi dans la continuité de ce qui s'est dit. C'est vrai que j'ai l'impression que pour lutter ensemble, il y a quelque chose à déconstruire. En tout cas, nous, dans le champ de la danse, c'est aussi là qu'on peut constater que c'est difficile de mobiliser les gens, et notamment les artistes qui font de la scène, puisque, en fait, il faut déconstruire ce truc que si tu vas sur une scène... tu fais un acte politique, ça c'est vraiment une croyance du milieu chorégraphique, performatif, et c'est très difficile de lutter contre ça, et même avec des figures très engagées. Bon, là j'allais faire une sortie sur Adèle Haenel, donc je vais peut-être pas le faire, mais et du coup, je pense qu'il y a eu aussi ce constat-là dans les dernières mobilisations, notamment quand il y a eu tout ce mouvement Arend-Grève en 2019 contre la réforme des retraites. Nous, quand on a rejoint un peu ce mouvement-là avec la permanence, on était souvent... on nous disait « Ah, vous voulez pas faire un truc de danse, faire un truc avec vos corps et tout ?» Et c'est vrai que, en fait, si tu veux te politiser à un moment donné et rejoindre les luttes-là, non, en fait, faut prendre un temps aussi pour lire des trucs, pour écouter des choses, pour parler ensemble. Et du coup, si on est juste là en train de danser et à devenir feuille ou à devenir je sais pas quoi, je sais pas si on va y arriver. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette nécessité de se dire « Ah ouais, en fait, il y a vraiment besoin. » Et à chaque fois, en fait, c'est une prise de conscience collective de se dire « Ah, mais il y a besoin, en fait, de s'écouter, de se raconter des expériences heureuses ou malheureuses qu'on peut avoir aussi dans ce milieu professionnel. » Et de dégager du temps, en fait, au militantisme, aux luttes, à pouvoir rejoindre d'autres luttes. Donc, c'est toujours un équilibre assez fragile et assez précaire, même si dans notre champ, il y a beaucoup d'intermittents, intermittentes qui, en fait, bénéficient de beaucoup de privilèges et qui ont vachement de mal à renoncer à certains privilèges, et notamment, du coup, à renoncer à de la visibilité pour juste aller militer et rejoindre des luttes collectives de manière plus anonyme. Donc, je pense que voilà, c'est un taf à mettre en place, mais je crois que à un moment donné, quand on fait des appels à grève, en fait, il faut avoir cette force en tant qu'intermittent, je parle, de suivre la grève, en fait. Enfin, voilà.
Oui, je réagis juste. Je me relève parce que je peux vraiment pas parler comme ça. Ah, en grève, ça m'a fait réagir. Voilà. Ça, c'est un exemple aussi, les luttes, ça paye. Et le rassemblement, quoi. C'est-à-dire, Arend-Grève, les théâtres occupés il y a 3 ans, là, partout. Et les artistes visuels, plasticiens, qu'est-ce qu'on peut revendiquer, nous, dans ce truc ? C'est vrai, on n'en a rien à foutre, nous, on n'est pas payés. Donc, là, on est solidaires des intermittentes, intermittents, oui, mais qu'est-ce qu'on y gagne ? Que dalle. Et en fait, avec Aaron Grève et les SNAP, et le SNAP CGT local de... Alors, j'étais à Nantes, hein, sur Nantes. Qu'est-ce qu'on a fait ? À 5h du matin, on est allé coller sur les trois galeries municipales de la ville de Nantes. Ici, on travaille gratos. Vous êtes exposé à vos propres frais. Et on a placardé ça sur toutes ces galeries ces trois galeries associatives fermées, évidemment, parce que c'était aussi confiné. Qu'est-ce que s'est passé ? Eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un an plus tard, on a gagné 1000 euros l'exposition dans ces lieux où on exposait gratos. En fait, les camarades d'Aaron Grève avec qui on a mené le combat, ils ne peuvent pas être heureux de ces 1000 euros parce que Aaron Grève, c'est fini. Ça s'est déconstruit, le collectif. Il n'y a que nous, au SNAP, qui pouvons témoigner là maintenant que c'est avec les camarades d'Aaron Grève qu'on a gagné, un an plus tard, 1000 balles. Voilà. Et merci à Aaron Grève, on ne l'aurait pas réussi tout seul, mais grâce au syndicalisme, je pense que c'est pour cette raison-là que je suis syndiqué, grâce au syndicalisme, on arrive à lancer une lutte. Mais après, dans le temps et dans la durée, c'est aussi pour en obtenir quelques fruits.
Je vais juste retourner sur le fait que pour moi, c'est juste pour retourner sur le fait que c'est important d'archiver le loot, parce qu'en vrai, la façon que la personne peut apprendre qu'est-ce qui se passait avant et peut-être politiser dans une façon, c'est pas regarder les histoires et ça veut dire pas forcément le livre. Ça peut être le papier, ça peut être la lettre de mort, ça peut être les objets. Et je pense à la mémoire de sexualité, ça c'est assez important pour nous parce que moi, par exemple, je viens clairement pas de Marseille et juste de trouver dans cette archive la lutte à Marseille, ça aussi, ça me donne la racine de Marseille. Qu'est-ce qui se passait avant de Marseille pour pas lutter dans l'obscurité, juste dans le dire chez moi en Irlande c'est comme ça. Non, de raciner, de trouver qu'est-ce qui se passait avant. Et je trouve que c'est tellement important les archives ou les endroits collectifs pour faire l'éducation populaire, pour nous-mêmes de nourrir parce qu'on sait que l'État va pas faire ça pour nous.
Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit, Popo, et réinsister, parce que c'est hyper important, cette idée qui est très présente dans les milieux de l'art et de la culture, que parce qu'on est dans ces secteurs-là, automatiquement, c'est politique. Non, dans le milieu des plasticiens, plasticiennes, c'est tout le monde répète ça sans cesse. J'ai plein de potes qui font des peintures et ils croient que ça suffit. Non, si tu vends tes peintures à des bourgeois, tu fais que légitimer cet ordre-là et tu maintiens le monde dans l'état dans lequel il est. Tu changes absolument rien. Et donc, il faut sortir de cette idée-là. Et après, je te passe le métro, Lauriane. Donc voilà, je voulais juste réinciter sur ça. Amis artistes, plasticiens, plasticiennes, arrêtez de croire que parce que vous faites un petit dessin, une petite peinture, vous êtes politique. Absolument pas, ça suffit pas.
Il me semblait nécessaire de revenir sur l'importance de l'archive. Bah voilà, la R22, c'est une plateforme radiophonique et qui a à l'origine été créée au sein d'un lieu qui s'appelle Kiasma, qui n'existe plus. Justement, c'était un centre d'art. Et la particularité, on va dire, c'est Kiasma donnait lieu à pas mal de rencontres entre artistes, entre chercheurs, entre... L'idée, c'était un peu... c'était assez foisonnant. Il y avait un peu tout le monde qui venait se rencontrer et parler lutte, et parler politique, et parler monde d'après. Donc ça, je sais que ça a marqué une bonne partie des personnes qui sont passées par là. Et pourquoi est-ce que la radio a été créée ? Tout simplement parce que c'était un peu... il n'y avait pas les podcasts assez... Enfin, il y en avait, mais c'était pas quelque chose d'automatique, hein, on va dire. La radio, c'était pas aussi sexy, et tant mieux que ça le soit. Mais... il y avait d'abord la nécessité de nous-mêmes, en fait, de valoriser, d'avoir des archives. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce qu'on se disait là, on sentait que c'était important. ce qu'on se disait là, on se disait qu'il fallait que des personnes plus tard puissent se dire qu'on a, que ça existait. Et là, y a vraiment on a vraiment réalisé que les prises de parole, aujourd'hui, je l'ai redit à Lyon, mais j'aime bien le dire, notre coprésence et notre coparole, eh ben, c'est un tiers-lieu en tant que tel, un tiers-lieu éphémère. Mais on a construit, enfin, on a fait exister quelque chose là, et qu'en plus on a la chance de faire perdurer dans le temps. Donc les gens pourront y revenir, et d'où la nécessité, je pense, de vraiment être clair et de pas laisser, on va dire, d'autres nous raconter. Parce que là aussi, c'est le problème, c'est que quand tu le fais pas pour toi-même, en fait, tu laisses l'autre personne le faire, et là, tu dis, mais voilà, enfin, je veux dire, là aussi, y a vraiment une volonté de se renarrativiser et de se reprendre en main et de se raconter. Pas laisser les autres parler de nous, parce que sinon, c'est beaucoup de bêtises qui sont aussi dites. Et je vais te laisser prendre la parole.
Oui, donc, j'étais en train de vous écouter et en même temps, je me disais, effectivement, faire des archives, faire tout le travail qu'on fait, puisque on parle du travail. Effectivement, moi, j'ai participé donc au guide Conuna des rues de Marseille pour que ce livre puisse sortir et qu'il soit pas cher. Ben, on a décidé que tous les auteurs, donc on était 11 auteurs, qu'on ne prenait pas, qu'on ne gagnait pas d'argent pour pouvoir l'éditer. Pareil pour l'expo, donc on était, bon, c'est Anifa et moi, donc on a appris qu'on était commissaire d'exposition, ça m'a beaucoup fait sourire. Donc je suis pas commissaire de police, ça me dérange pas. Donc tout ce travail-là qu'on a fait, c'est des heures de bénévolat. Ben, effectivement, on a exploité d'autres personnes. Il y avait Daniel, Saïd, Pierrot, Karima, Evelyne, etc. Et donc, effectivement, c'est du travail, mais c'est pas du travail rémunéré. Donc, à un moment donné, c'est vrai que... c'est parce que si je fais un peu le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que quand un artiste fait une œuvre, il faut bien qu'il en vive. Et de la donner, c'est donner sa force de travail. Et en même temps, quand on regarde tout le travail que font les militants, c'est du travail qu'on fait, parce que pour nous, il est nécessaire pour transmettre l'histoire, pour transmettre la mémoire. Mais effectivement, on est des salariés précaires. Je veux dire, et puis si on parle des retraites, je ne veux pas vous dire le montant de ma retraite, mais si vous savez le montant de ma retraite, vous seriez indigné. Et je parle des femmes, parce que là, c'est vrai qu'on parle des artistes qui vivent dans des conditions scandaleuses par rapport au statut, mais on sait très bien qu'en France, les femmes ont des très petites retraites parce que, à un moment donné, elles sont arrêtées de travailler parce qu'elles avaient des enfants ou parce que. Et c'est vrai que ça aussi, c'est des choses sur lesquelles j'avais envie de parler, parce que c'est important de dire que, bon, effectivement, il y a du travail qui n'est pas considéré, et qui, quelque part, quand vous êtes à la retraite, eh bien, vous le payez. Donc, et c'est pour ça que au début, quand tu m'avais contacté, je me dis, pourquoi elle me contacte, quel rapport, machin et tout, et en fait, oui, c'est là aussi, on est dans les convergences des luttes, c'est-à-dire qu'on travaille. Mais le travail que l'on fournit n'est pas considéré comme un travail.
Oui, j'aurais aimé... bonjour, Livia. Militante de Réseau Salariat. Donc, pour réagir à Zora, ce que tu disais par rapport au travail, je crois qu'on fait... on ne sait plus ce que c'est que le travail. Enfin, on n'arrive pas à donner une définition. Enfin, moi, j'en donne une. C'est, enfin, pas que moi. C'est une production de valeur. Et la production de valeur, elle est économique. Ça, c'est le travail abstrait. Et vous avez le travail, l'emploi, le travail concret. Et c'est ça dans lequel il faut sortir, par lequel il faut sortir si on veut. On a Moi, j'ai beaucoup apprécié ton intervention aussi du STRAS. Moi, je suis une militante aussi de la première association de santé publique et de santé communautaire pour les personnes prostituées à Marseille, Autre Regard. Et au travers de ça, au travers de toutes ces expériences, et surtout en santé communautaire, en fait, on se rend compte que les gens, les personnes doivent se réapproprier leur souveraineté sur le travail. Voilà. C'est souveraineté, démocratie, et que les moyens de production nous appartiennent, comme il s'est passé avec la Préhem. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se questionner sur ça, parce que bon, moi, ça me fait sauter en l'air quand je vois, pour une continuité de revenus des artistes, autoristes, revenus, pour nous, c'est impôts. Il faut parler de salaire. Voilà. Le salaire, c'est important. Là, vous avez, on va pas au bout de... C'est très intéressant, hein, ce qu'il dit. De toute façon, il reprend plein de choses de réseau salariat. Mais le revenu, non. Il faut abolir ce nom. Parce que vous avez revenu universel dans revenu. Les gens confondent le salaire à vie avec le revenu universel. Revenu universel, c'est de l'impôt. La CSG, le RSA, c'est de l'impôt. C'est pas du travail. Que nous, on a fourni. Merci.
Juste, du coup, Pierre, tu vas répondre. Après, je te passe la parole. Et après, Irène. Mais du coup, ce livret, il a été écrit avec le STA, la BUS, le SNAP et le PCF. Et du coup, je pense que c'est... clairement, c'est une espèce de mini-marche avant ce dont tu parles, qui est l'horizon lointain. Voilà, mais... Et du coup, après, je passerai la... voilà, et que... Ah oui, oui, non, mais t'as raison, j'oublie. Et en vrai, toute l'après-midi, on parle de ça. Toute l'après-midi, on parle de sécurité sociale et tout ça, donc je vous invite à rester. Là, c'est le moment teasing. Et voilà, donc... Ok, parfait.
Du travail gratuit, en fait, et de la situation des femmes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup dans les luttes concernant le travail sexuel. On est dans la directe lignée de ce que Silvia Federici prônait, c'est-à-dire des salaires pour le travail domestique. Donc vraiment, on est, enfin, la société capitaliste se construit aussi sur l'invisibilisation du travail et le fait d'essentialiser et de naturaliser le travail de ces minorités, notamment des femmes et des minorités de genre en général, et le fait de visibiliser que ce qu'on est censé faire, parce que c'est dans notre nature, par amour, par conscience, par je ne sais pas quoi, c'est aussi du travail et que ça doit mériter un salaire. Et juste le fait de conscientiser ça, on rentre dans une classe, dans une lutte de classe. Et je pense que c'est important et ça rejoint complètement cette continuité. Et je pense qu'on fait aussi beaucoup ça avec les artistes, que sous prétexte que ce serait une passion et de la création, ben voilà, c'est quelque chose qui ne doit pas être rémunéré. Mais c'est faux. La société vit, et la société capitaliste vit aussi comme un parasite sur tous nos travaux invisibilisés et essentialisés. Donc je tenais à souligner ça et à dire à quel point c'était fondateur dans le mouvement du travail sexuel aussi.
Alors, juste une précision par rapport aux artistes. Les artistes autrices sont encore plus invisibilisés, encore plus mal payés. C'est encore pire que dans le secteur du salariat, déjà pour préciser. Et donc, ça, c'est pour les rémunérations et pour les retraites. Donc, on est dans l'extrême précarité, d'autant plus si on cumule le fait d'être une femme, d'être éventuellement prostituée, d'être éventuellement de couleur non blanche. Alors là, on cumule beaucoup, et c'est encore pire. Et parce que dans les artistes, je ne dis pas ça pour rigoler, ça existe. C'est la réalité, évidemment. Ça, voilà. Ça, c'est pour juste le premier truc. Et juste aussi pour la terminologie qui a été employée dans le livret. Évidemment, la discussion avec les fondamentaux de Réseau Salariat et Aurélien Catin, évidemment, elle a eu lieu, cette discussion. Évidemment que le choix des mots prête à débat, et il prête, on le fera, le débat, mais sachez que parmi les artistes auteurs, rien que cette notion d'idée d'une compensation de perte de revenus ou de perte de salaire, quel que soit le mot, rien que cette idée, c'est l'essentiel à faire passer, parce que il y a encore quelques années, la profession, elle aurait refusé cette idée-là. C'est-à-dire qu'on était des artistes libres, on n'allait quand même pas être salariés. C'est ça, de là où on part. Donc comprenez bien que pour les mots qui sont à utiliser, il s'agit d'une prise de conscience lente des professionnels de notre secteur. Merci.
Oui. Oui, pour compléter, c'est juste, je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue, il n'y a aucun problème. Simplement là, cette brochure, son objet, c'est quoi ? C'est de déposer une proposition de loi qui va être discutée à l'Assemblée nationale. Donc là, effectivement, je veux dire, même dans les modalités d'application, il y a des choses, je veux dire, c'est juste, je ne suis pas d'accord parce que moi, je n'aurais même pas droit, nanana. Bon, ça ne va pas assez loin. Mais là, il s'agit de déposer donc une proposition de loi qui va être discutée à l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire qu'elle va être votée. Mais enfin, je pense que si on l'avait appelée pour un salaire à vie des artistes auteuristes, là, il n'y avait aucune chance que ça soit discuté nulle part. Voilà.
Peut-être qu'on peut continuer un peu sur la question de la convergence des luttes, si les gens veulent réagir, et qu'on abordera ce questionnement-là après cet après-midi, puisque vu que là, c'est la table ronde en question. Et si d'autres personnes veulent réagir dans la salle.
Est-ce qu'il y a des réactions encore ou pas ? En tout cas, je ne sais pas si... alors, évidemment, on peut peut-être s'arrêter. Donc là, je vais répéter ce qu'il vient de me dire. On peut fumer des clopes, boire des cafés ou faire des trucs bons pour la santé. peut-être à titre de conclusion... En tout cas, ce projet de loi, qui est certes imparfait, il est notamment porté par des syndicats. Donc si vous avez en plus, si vous en avez marre de seulement vous exposer sur scène et seulement signer des trucs pour être politique, n'hésitez pas à vous syndiquer au SNAP, au STA, au STRAS, enfin il y a plein de maisons possibles, mais en tout cas, je crois que ça fait un peu partie de nos croyances que ça sert de déjà payer sa cotisation à un syndicat pour aider les militants qui font ce travail bénévole de promotion de cette loi. Et ensuite, je vous invite aussi du coup à rester cet après-midi pour poursuivre plus en profondeur ces questions de sécurité sociale alimentaire, sécurité sociale tout court, sécurité sociale de la culture. Enfin, on va essayer de balayer tout ça. Voilà. Non, mais vraiment, on peut en mettre plein. Et je vous invite à rester pour manger. Et voilà, je 13h pile. Je viens d'avoir l'info. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure.